Contrebande, bonjour à tous, bienvenue dans Contrebande, une émission de cinéma de Radio Libertaire 89.4. Nous sommes ensemble jusqu'à 21h avec, pour invité de la première heure ce soir, Jérôme Huibon. Bonsoir, bonjour. Jérôme.
Bonsoir Bernard.
On pourrait peut-être te baptiser archéologue du cinéma, Jérôme. Tu es là pour la sortie d'une collection de films en Blu-ray chez Studio Canal, une collection qui s'appelle Nos années 80, après une autre que tu avais initiée toi-même auprès de l'éditeur-distributeur Nos années 70. On va revenir sur ce projet, le choix des films, la manière dont tu pistes aussi les documents qui complètent ces éditions, puisque de manière générale, tu es passionné d'ailleurs par les making-of et par les archives originales sur les films que tu retrouves régulièrement. Je précise aussi que tu es réalisateur de films sur notamment Le Splendide. Le film est repassé récemment pour de mauvaises raisons,
et oui,
avec la disparition de Michel Blanc. On a pu le voir sur France 2 et sur la plateforme de France Télévisions. Mais des films aussi sur Claude Pinoteau, Philippe de Broca, Alain Gessua, Yves Robert, Pierre Jolivet, Jean-Paul Rapneau, enfin beaucoup de, oui, beaucoup de cinéastes.
T'as cité Alain Gessua, j'y tiens beaucoup.
Et oui,
on partage cet amour pour le cinéma et la personnalité, et je dirais, d'Alain Gessua, un homme adorable. J'ai le souvenir d'un, vraiment une humilité totale et une passion, même à la fin de sa vie, pour le cinéma. Je sais pas si tu te souviens un peu.
Complètement.
C'était dingue, quoi. Donc, toi, tu t'es occupé de la rétrospective à cinéma.
Ouais, qui était la rétrospective qui avait eu lieu d'ailleurs quelques mois avant sa mort. Et j'étais content que ça ait lieu de son vivant.
Ouais, tout à fait. Ouais. Elle a été célébrée de son vivant. Je crois que ça l'avait beaucoup touché. Et donc voilà.
Je pense que c'est un cinéaste dont on n'a pas fini de parler, parce qu'il faisait quand même un cinéma de presque prémonitoire.
Ouais, moi je suis content d'avoir sorti plusieurs films de lui des années 70, Traitement de choc, Armageddon, et puis Jean-Baptiste Torré a sorti Les Chiens, par exemple, qui est un grand film aussi. Donc son œuvre, elle est disponible.
C'est ça, je trouve ça. Complètement.
Ça, il n'a pas tourné beaucoup, mais les films sont là et sont visibles. Je vois qu'il y a une curiosité pour des générations plus jeunes pour ce cinéaste. Donc son cinéma vit, ça fait vraiment très plaisir.
Ouais, voilà. Complètement. Et d'ailleurs son tout premier long métrage qui est un film assez dingue d'ailleurs, assez fou, La vie à l'envers,
avec Charles Denner,
sort cet automne en DVD, en Blu-ray.
Donc voilà, je trouve que l'œuvre elle est là, elle est disponible, c'est très agréable, clairement.
Ouais, complètement. Donc on va continuer à parler de tout ça très très vite, et nous rendrons hommage aussi dans cette émission à Jean-Claude Mission, qui est donc disparu il y a quelques jours, qui avait été invité de cette émission pour la sortie de son livre il y a quelques années. Nous réécouterons un petit passage. Et d'ailleurs, tu sors dans la collection des années 80, Jérôme, un film de Jean-Claude Mission en décembre.
Ouais, son premier film, Tir groupé. C'est pas un cinéaste qui a tourné beaucoup. Tir groupé avec Gérard Lanvin et Véronique Jeannot et Michel Constantin, un polar vigilante, un film très intéressant qui date de 83, 82. Donc le hasard veut que le film sorte en décembre, et il y aura Jean-Claude Mission dans les suppléments à travers des archives, où il défend son film à la sortie.
Et c'était aussi un grand cinéphile, un peu comme Tavernier finalement.
Oui, c'était une génération de passeurs, quoi. Donc il a été cinéphile, et puis attaché de presse de Burt Lancaster. Il a touché un peu comme Tavernier, à fait.
Un peu même parcours. Et dans la deuxième heure de l'émission, donc après 20h, nous consacrerons donc cette deuxième heure de Contrebande à un chef décorateur formidable d'origine brésilienne, Rafael Maché. Il a conçu les décors notamment en Fanfare, le nouveau film d'Emmanuel Courcol avec Benjamin Laverne et Pierre Lautin qui sortira à la fin du mois. Mais il a travaillé ces dernières années sur Neuf Doigts de Evgeny Ossan, Banel Adama de Ramata Tulaisi, Alma Viva de Christelle Alves Meira, ou La Nuit Venue de Frédéric Farrucci. Donc ce sera pour la deuxième heure de l'émission. Voilà. On a reçu dans l'émission notamment des monteurs, des chefs opérateurs, des scripts. On n'avait pas encore reçu de chef d'écho. C'est maintenant chose faite. Ce sera chose faite tout à l'heure. Et pour commencer, on écoute un peu une chanson qui a à voir un peu avec des choses que tu défends et sur lesquelles tu travailles. Jérôme, on écoute, mais c'est une rareté, on écoute Catherine Deneuve dans une chanson qui est issue d'un film qui est vraiment à la frontière 79-80, donc j'ai bien fait les choses, puisqu'on parle un peu de ça, cette frontière, ce basculement 70-80. C'est le film d'Yves Robert, en plus, à qui tu as consacré un portrait, Courage Fuyons, et on écoute cette chanson tout de suite.
lorsque le jour se lève, adieu les beaux navires, la ville sort du rêve, et nous sommes pareils, c'est toi qui apparais, et c'est moi qui chavis. Show me your guns and grit, seems to me you're a man. Fight where your weapons fit. Wasn't you kind of blind? The girl from Amsterdam knows the target you've in mind. En deux ou trois journées, tu auras pris le large. Je reste dans la marge de la page tournée. Je ne serai jamais la dame d'Amsterdam. Son corps comme un écueil, son ombre comme un deuil. Les hommes qui l'aimaient venaient s'y briser l'âme. I'm just another smile, a girl from Amsterdam. Stay with me for a while. Call yourself Barbara Sam. I sure don't give a damn. Asking is not my line. Reality's a dream. I won't hide over it. Let me give you my scene. Happy for a while. Men, they will come and go, it is part of the game. Turn off my radio, singers, gun songs, we men like the sun, the rain waiting to shine again. Singers, gun songs, we men like a sun in the rain waiting to shine again.
Voilà, vous écoutez Contrebande, l'émission cinéma de Radio Libertaire 89.4, et on a écouté un peu pour lancer l'émission ben, cette Lady from Amsterdam, tirée du film Courage Fuyon de Yves Robert. Voilà, c'est une chanson pas très connue.
Non, c'est les, puis c'est l'époque où De Neuf chante, parce que l'année ouais. suivante, elle fait Dieu est un fumeur de Havane, non, Je vous aime de Claude Berry. C'est juste après, quoi. Donc,
oui.
Avec, enfin, fait par Gainsbourg, enfin, c'est un duo avec Gainsbourg. Donc, oui, là, c'est ça. Un moment de chanson dans sa carrière. Ouais.
Mais après, il y a toujours eu des comme ça. Bah après, elle rechantera oui. plus tard avec Gabriel Aguillon. Après, elle rechantera avec Christophe Honoré. Donc voilà,
oui,
il y a plusieurs
oui.
époques.
Oui, c'est ça.
Ouais, on va dire ça. Alors, Jérôme, on va parler donc de ces collections, nos années 70, nos années 80. Qui paraissent chez Studio Canal. On va évidemment parler un peu plus de nos années 80 parce que c'est l'actualité. La collection vient de sortir, enfin, en tout cas les six premiers, parce que évidemment ça va continuer. Il y en aura une autre salve en décembre qui vient, donc c'est dans pas longtemps. Mais peut-être faisons un petit bilan de la collection de nos années 70, puisque elle existe déjà depuis quelques temps. Et puis il est prévu qu'elle s'arrête au printemps 2025. C'est ça, mars 2025.
C'est ça, ouais. Elle s'arrête en mars 2025. On aura sorti 36 films. Alors ça paraît pas beaucoup, mais c'est beaucoup. Avec cette volonté de, si j'utilisais une vieille expression, d'aller tous azimuts dans cette décennie-là, donc à travers les différents genres, et puis la volonté de d'avoir des films qu'on aime tous et qu'on avait envie d'avoir dans de belles éditions, et la volonté aussi de découvrir des films en fait qui avaient été oublié. J'avais pas perdu, mais complètement oublié. Là, je sors bientôt le seul film réalisé par Françoise Sagan.
Les Fougères Bleues.
Oui, les Fougères Bleues, voilà. Alors, toi, tu connais, mais à chaque fois que j'en parle, ah bon, elle a réalisé des films. Elle en a fait un. Marguerite Duras en a fait 6, 12, je sais plus. Mais Sagan n'en a fait qu'un. Avec Caroline Cellier, voilà, Françoise Fabian, espèce d'objet. C'est un objet étrange.
Une vraie curiosité.
Et en plus, il s'est greffé à un moment. Enfin voilà, on fait pas des listes définitives à chaque fois sur 2-3 ans. Il y a des films qui se greffent. Et pour finir, on aura L'âge Koumoun, qui n'était pas prévu au départ dans la collection. Et donc en mars, il y aura L'âge Koumoun de Giovanni. En plus, le hasard veut que c'est le 50e anniversaire de la mort de François de Roubaix. Donc je suis très content de pouvoir ressortir le film. Et dans les bonus, il y aura des choses sur François de Roubaix. Quoi. Clairement, ça me paraît. En plus, le thème est très connu. Donc voilà, il y a ce mélange de films un peu. On a sorti des films comme La vieille fille, un film que j'aime beaucoup.
Jean-Pierre Blanc, film.
Il a pas tourné beaucoup, mais c'est son premier film et c'est son meilleur film.
Avec Philippe Noiret, et Girardot.
Denis Girardot, ouais. Jean-Pierre Darras, Michael Lonsdale, Edith Cobb. C'est un ovni aussi de comédie, pas très loin de Jacques Tati. C'est un film qui avait marché à l'époque, j'avais regardé. Il avait fait le même score que Tendre Poulet avec Noiret et Girardot. Mais il était tombé dans l'oubli. Et donc je sais, quand on a lancé cette collection, je prends La vieille fille tout de suite, quoi. Je veux absolument qu'on puisse ressortir le film. Et c'est vrai que l'élan qu'il y a dans une collection années 70, c'est que certains films tirent les autres, en fait, les plus connus. Évidemment que La Galette de Pont-Aven, il n'y a pas besoin de présenter le film, mais il peut permettre de se dire, il y a un autre film avec Marielle, il y a un autre film qui peut être intéressant. Donc, notamment sorti Cause toujours tu m'intéresses, qui est vraiment un très 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 mauvais titre pour une comédie douce amère sur des quadras qui trouvent pas l'amour, donc Girardot et Marielle. Le film est hyper touchant, avec le titre un peu à la Philippe Clair, un peu ringard, quoi. Et non, le film est c'est autre chose, quoi. Donc il y a eu ce plaisir de mélanger, des comédies et puis des polars, des drames. Pas tellement d'aventures, il n'y a pas tellement de films d'aventure dans les années 70, mais voilà. Et mélanger les années et puis montrer des nouveaux talents, les premiers ou deuxième films, deuxième film de Claude Miller, Dites-lui que je l'aime, qui est un chef-d'œuvre, mais qui est un échec. Donc il passe moins et tout ça. Donc c'est un peu, pour résumer, c'était un peu cette envie là. Et puis évidemment, ces films montrent la société française post 68 avec beaucoup de liberté sexuelle, mais aussi de mœurs en général. Une espèce de voyage dans une décennie, c'était très 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 fun à faire pour le coup.
Et les collections, nos années 70 va s'arrêter parce que, en gros, dans le catalogue sur Canal, t'as fait un peu le tour de ce qui était sortable, on va dire.
C'est toi qui le dis. je trouvais que, il y avait des titres un peu, franchement, qui m'emballaient pas trop. Et qui manque à personne. Je m'avance un peu, mais si le reste, ils sont disponibles en VOD, par exemple. Donc c'est vrai que c'était moins emballant. Et c'est vrai. Et par exemple, sur un film que j'ai sorti, Le Gitan, avec Delon et Paul Meurice, je m'étais dit que ça serait sympa aussi de s'intéresser à Paul Meurice. Donc il y a une longue interview de lui de 35 minutes en 76. Je trouve que c'est la dernière interview qu'il fait à la télévision, puisqu'il meurt en 79. Et il parle de Renoir, de son ami Melville, des monocles. Il parle pas du Gitan, mais c'est pas grave. Et j'aimais bien ce côté, mettre des longues interviews de ces acteurs. Parfois c'était prétexte, quoi. Je lui dis, il y a Paul Meurice dans le film. Faisons un focus sur lui. C'est un acteur qui peut être parfois un peu oublié, donc et ça a pu être le cas. Il y a eu des longues interviews de Marielle, de Bernard Fresson. Il y a une longue interview d'Alain Delon sur Les Seins de Glace, une interview de 1980 qui dure une heure Et il est en pleine forme. Il est souriant. C'est pas souvent quand même que Delon est souriant. Il blague même avec le journaliste. Et je lui dis ouais, mais c'est super, tu vois, parce qu'on a le temps en plus sur le support physique, parce que là on est clairement là-dessus, de prendre son temps, de mettre des formats longs d'archives. Tu disais tout à l'heure, j'ai fait un doc sur le Splendid, mais on prend des petits bouts d'archives qu'on complète avec de nouvelles interviews, des petits bouts. Quand on peut proposer l'intégralité de l'archive, c'est vachement intéressant, quoi. Parce que qui va proposer une interview de Delon d'une heure à la télé, non, ça se rediffuse pas, quoi. C'est pas un... Donc voilà. Et puis c'est détourner ce qu'étaient ces émissions de flux, c'est-à-dire que ça passait, puis ça, normalement c'était voué à disparaître. Et pas être diffusé. Et je trouve que voilà, de les intégrer en supplément des films sur le support physique, ça leur donne une valeur patrimoniale en fait. Et ils sont visibles. Ils restent pas sur une étagère de l'exploitant des archives, quoi, l'INA ou la RTBF. Enfin voilà. Donc voilà, il y a cette vraie volonté de ma part de montrer ces choses-là, et parce qu'elles ont une vraie valeur. Mais c'était pas leur but au départ, quoi. C'était juste du flux. Voilà, donc en fait, elles sont fantastiques, quoi.
Alors c'est intéressant parce que ça pose évidemment plein de questions. Je vais en tirer deux comme ça, qui sont importantes. C'est la question de la mémoire, à la fois de la mémoire des films, mais la mémoire des archives aussi, effectivement, parce que comme tu viens de le dire, les archives sont dessinées parfois, enfin elles sont pas encore des archives d'ailleurs, elles sont des émissions de cinéma ou des interviews qui sont parfois destinées à passer qu'une fois, qui sont pas forcément destinées à rester, à être revues quelques années plus tard, quelques décennies plus tard même. Et puis la question évidemment de la mémoire des films, parce que ça permet aussi de réhabiliter aussi peut-être des films, tu parlais de Cause Toujours Tu M'Intéresses, mais de les voir différemment, de les faire découvrir aussi à des nouvelles générations. Et puis ça pose aussi la question de la cinéphilie, parce que quelque part cette collection, elle permet d'aborder les films sous plusieurs angles, pas seulement le sacré angle cinéphile auteuriste, on va dire, mais on peut s'intéresser à cette collection pour différentes raisons, aussi la manière dont le cinéma français filmait la société de l'époque, enfin que ce soit les années 70 ou les années 80, la question de la production, la question des acteurs, la question, enfin il y a mille questions finalement à travers un film, et là finalement à chaque fournée, j'allais dire, on voit comment les films se sont inscrits dans leur sortie à l'époque, et comment ils peuvent être vus aujourd'hui.
Ouais, et puis là on parle de cinéma dit commercial, c'est des films avec vedettes la plupart, qu'on pourrait résumer des films du dimanche soir de TF1, enfin qui ont fait les grandes heures de ces plages horaires sur les et finalement aujourd'hui c'est plus le cas, ces films là ne passent plus à part des chaînes du câble et tout ça. Il y a une vraie valeur dans ces films commerciaux, c'est-à-dire de ce que ça raconte sur la société. Il y a des gens de talent en fait devant et derrière la caméra. C'est un peu comme je parle souvent des westerns italiens, les western spaghetti, qui étaient des films purement commerciaux quand ils sortaient en salle, voire dans des salles de quartier, et qui 40 ans plus tard sont célébrés dans les cinémathèques. C'est un peu le même truc ici, c'est-à-dire que ces films ont une valeur, la manière dont on distribuait les rôles à des acteurs dans les 70, Marielle et Rochefort et tout ça accèdent à des premiers rôles. Dans les années 60, c'était pas possible. On prenait que des jeunes premiers. Et là, et eux-mêmes le disaient. J'ai vu une interview de Rochefort qui dit, mais la nouvelle vague m'a ignoré, quoi. Enfin, elle nous a ignoré. Il parlait de Marielle aussi. Il a tourné avec Chabrol bien plus tard, quoi. Donc, et là, on sent qu'il y a quand même des acteurs qui accèdent à des premiers rôles. Évidemment les Cales de Pont-Aven, c'est extraordinaire ce que fait Marielle et ce que lui propose Joël Seria, donc des films qui n'auraient pas pu exister 5 ans avant. Donc voilà, je trouve qu'il y a c'est une époque encore où avec des producteurs qui prennent des risques ou des productrices, hein, évidemment Michel de Broca, Albina Dubois-Rouvray, des choses comme ça. Donc il y avait ça aussi, je sais plus sur quel film, j'ai proposé en bonus un portrait d'Albina Dubois-Rouvray. Je crois que c'est un film de Pierre Richard. Les Oiseaux, pardon.
Ah oui, Les Oiseaux de Pascal Thomas. Thomas,
parce qu'elle a produit Pascal Thomas, Alain Corneau. Et je lui ai dit, mais aussi, les acteurs, c'est bien, les réalisateurs, c'est super, mais mettons aussi l'accent sur des musiciens, sur des producteurs, sur des chefs-op, à travers des archives. Et il y avait, moi, j'avais une volonté, voilà, de, je sais plus, je crois que j'avais un film de Pierre Richard et j'avais mis l'accent sur Pierre Richard. Et puis après, il a fait un film avec Matchon. Et je lui dis, mais bon, Pierre Richard, j'ai un peu déjà traité avec une longue interview de lui d'1 heure. Là, mettons une longue interview d'Aldo Matchon, où on comprend, allez, pour être gentil, son approche du cinéma, enfin, quel intérêt ou absence d'intérêt il a pour le cinéma, en fait. Juste un divertissement et il s'amuse, quoi. C'est ce qui est honorable, hein, pour le coup. C'est un peu le Yannick Noah de... Amusons-nous, quoi. Plutôt que, voilà, d'être sérieux. Mais, voilà, d'explorer des choses et de mettre en lumière des gens moins connus. Ouais, c'est un bon exemple, Albina Dubois-Rouvray, pour ça, quoi. Donc, ouais, les musiciens aussi, ouais. Bon, là, plus connus, mais je sais que sur un film des années 80, il y aura un long portrait de Philippe Sard, de 83, que j'ai retrouvé, là. Donc, je suis en train de le voir. Et, ouais, je suis très content de faire ça, ouais.
Là, c'est déjà un peu le cas d'ailleurs pour un. Il y a déjà un petit portrait de Philippe Sard. Je crois que c'est pour Une étrange affaire.
Ouais, c'est, en plus ça c'est une archive. Alors c'est ça aussi, c'est que c'est un bonus qui avait été fait pour le DVD il y a 20 ans.
Ah oui, qui a été repris. Okay.
Je trouve ça hyper intéressant parce que là on parle de d'archives patrimoniales, mais en fait les bonus DVD sont devenus du patrimoine parce que c'est tellement vieux.
Ah, oui.
Ça fait 25 ans. Qu'on est plus. Enfin, moi, j'ai enregistré un commentaire audio avec Philippe Broca sur Le Magnifique pendant l'été 2000, il y a 25 ans.
Ouais, ouais.
On était au tout début, hein. Mais on se rendait pas compte de ça, en fait. Mais tout ça est devenu des témoignages précieux de ces films, que ce soit Garnier de Fer, Tavernier, qui a énormément travaillé sur ces films, en commentant ces films, en sortant des archives personnelles. Il reste une trace. Moi, je trouve ça très... Je dirais qu'on... Tous les éditeurs vidéo ou les gens comme moi qui ont produit des bonus, tout ça, on a écrit une histoire parallèle du cinéma français. Avant, c'était plutôt une histoire qui s'écrivait par écrit, qui s'écrit toujours par écrit. On parlait du livre Golden 80s qui vient de sortir chez Carlotta sur le cinéma français. Et c'est passionnant et c'est un pavé qu'on dévore.
Nicolas Rivière, ouais.
Et je trouve que voilà, il y a eu une écriture aussi par l'audiovisuel, je dirais, et par le DVD. Mais personne ne s'en rendait compte à l'époque. Mais aujourd'hui, je vois bien, en reprenant ces bonus, ben je peux faire parler Granier de Fer, à la fois dans une archive où on voit le tournage de son film, donc contemporain du film, mais il y a aussi une archive qui a 25 ans, ou 20 ans plus tard à l'époque... J'espère que tu me suis. voilà, il revenait sur la production de son film. Je sors Une femme à sa fenêtre de Granier de Fer. Il avait fait une longue interview, une vingtaine de minutes, pour résumer un peu son expérience sur sa femme à sa fenêtre. Et, on va dire, le mauvais casting de Victor Lanoux qui regrettait, quoi. Donc, il y a ce recul. Voilà, ce miscasting qui est flagrant à l'image aussi. Hein, mais voilà, il le dit. Donc, voilà, on a créé du patrimoine tous, les uns et les autres, les éditeurs depuis 20-25 ans. Donc ça, je trouve ça hyper important de pouvoir reproposer ces archives, enfin ces bonus. Alors des fois c'est compliqué, on n'y arrive pas parce qu'il y a des problèmes de droit qui peuvent se poser, tout n'est pas parfait, mais on essaye, quoi, on essaye.
Oui, parce qu'il faut dire que tous ces films-là n'existaient pas avant en Blu-ray.
Ouais, ils sont tous inédits en Blu-ray et certains sont même inédits en vidéo. Donc t'es même sorti, jamais sorti en DVD. Là, en décembre, avec les équipes de Studio Canal, on sort Je vais craquer de François Letterrier avec Clavier, qui est un film que tout le monde réclame depuis des années en DVD, c'est jamais sorti. Et donc, je sais très bien que là, quand j'ai annoncé ça, le rédacteur en chef de Schnock était fou, là, parce que ça fait, il en parlait dans le premier numéro de Schnock, qui sont au numéro 53. Donc voilà, il y a ça et, Et là j'ai sorti Josepha de Christopher Frank avec Miu Miu, Kremer et Brasseur, qui était jamais sorti en DVD. C'est un film que j'adore, qui pour moi était une des évidences. Ça sera sans doute pas la meilleure vente, mais c'est un film hyper intéressant sur le théâtre, qui galère, hein, pas les, voilà. Et puis c'est à la fois aussi une rupture et une début d'une histoire d'amour. C'est un film très touchant.
Ouais. On peut s'y arrêter d'ailleurs. On peut commencer un peu à explorer un peu les six titres de cette première salve des années 80, nos années 80. C'est vrai que Josepha, Christopher Frank, il est souvent connu comme ça pour un titre qui est l'année des méduses, son succès, je pense,
c'est ça.
Le plus important.
Ouais.
Et puis parce que il a fait d'autres films comme Femme de personne ou Spirale.
Femme de personne, qui est un film intéressant aussi.
Complètement. Ouais. Et puis effectivement son premier long métrage qui était au départ un roman, parce que lui il est romancier
et scénariste pour Delon. Enfin, à la fin des années 70, début 80, il coécrit pas mal de trucs. Il adapte des films pour Delon, des polars. Et puis Josepha est un roman au départ, en fait, qui veut adapter lui-même en fait. Et il trouve le financement et je pense que c'est son meilleur film. Mais le film avait pas mal marché, hein, mais pourquoi tombe un peu dans l'oubli. Mais c'est vrai qu'on pense qu'à l'année des méduses, qui a rien à voir, hein, pour le coup, mais qui était un gros succès pour le coup. Et donc j'étais content de voilà. Et puis il y a un long portrait de Bruno Kremer interview.
C'est un bon exemple justement par rapport au bonus, parce que ça permet de faire un pas de côté, de mettre un peu l'accent sur Bruno Kremer, qui est un acteur qui n'a pas non plus donné des tonnes d'interviews.
Non. Et qui aime pas ça, ça se voit.
Qui aime pas ça. Mais il se trouve que voilà, tu es tombé sur une archive belge.
Oui, ils ont un fond magnifique. J'avoue, je pioche allègrement dans les archives de la Sonuma, qui est l'INA belge. Ils ont je voyais qu'il y avait une longue interview de Bruno Kremer où il parle un peu de Josepha. C'est juste avant qu'il décide de jouer Maigret. Mais donc il peut parler de Pierre Schoendoerffer, de Belmondo. Il parle de Belmondo l'Alpagueur, pardon. On sent l'homme pudique qui fait ça gentiment, mais il préfère être ailleurs, oui, clairement.
Oui, mais cela dit, l'interview est vraiment, vraiment, vraiment bien, parce que bon, c'est un intervieweur qui interview au théâtre, il joue Love Letters avec Anouk Aimée à ce moment-là, et puis voilà, comme il est belge, il lui pose direct une question sur sa belgitude, parce qu'il est flamand, il a des origines flamandes, Kremer. Il pose des questions sur sa taille, tout ça, dès le début d'entrée de jeu, ce qui conditionne un peu Bruno Kremer.
Et il a une réponse qui m'interpelle, qui m'interroge, c'est que est-ce que vous avez retourné avec Jean-Claude Brissot, et il dit plus jamais. Et je ne sais pas pourquoi. En fait, je connais pas assez l'œuvre de Brissot et leurs différents, mais c'est assez définitif, quoi. Donc voilà, ouais.
C'est pour ça qu'elle est vraiment passionnante, cette interview.
Oui. Donc je trouve que c'est un bon complément, un pas de côté, ouais, c'est ça. J'aime beaucoup ces pas de côté, raconter évidemment les films eux-mêmes et faire un pas de côté sur les carrières des uns et des autres. Ouais.
Et puis c'est bien aussi d'écouter la voix de Christopher Frank en bonus, parce que voilà, pareil, on n'a pas souvent entendu parler de ces films. Et Josepha, voilà, c'est un film. On a un petit extrait de Josepha qu'on va écouter, qui est justement précisément la rencontre avec Bruno Kremer, entre Miu Miu et Bruno Kremer. On va écouter ce moment-là et puis on continue après à parler.
C'est vrai que c'est ennuyeux.
Quoi, le tournage? Oh oui.
Oui, Abel, on te demande au téléphone.
Ah, merci. Je reviens.
Je vous attends.
Bonjour. Et donc, vous parlez bien le français?
Je vous demande pardon.
Non, je voulais simplement vous dire que le mariage de Maria Braun, c'est... un chef-d'œuvre.
Ah oui?
Bon, allez, je vous laisse.
Ouais. Je sais pas, démarre pas. Juste quand j'allais sur le tournage. Heureusement, quelqu'un m'a emmené. Il a une Range Rover.
Tu fais quoi, là?
Justement, je prends un café avec lui.
Il commence, type?
Pas mal du tout.
Qu'est-ce qu'il fait là-bas?
Apparemment, il fait une cure. Tu viens quand?
Samedi, je pense.
Je t'embrasse.
Déjà? Dis donc, on va essayer de retrouver ton type. Hein.
On peut rien te cacher. Salut.
Voilà, donc on a écouté, toujours dans Contrebande, hein, sur Radio Libertaire, un extrait de Josepha de Christopher Frank, donc son premier long métrage, mais vraiment pas connu du tout, qui était jamais sorti, qui existait peut-être en VHS, mais en tout cas pas en DVD, encore moins en Blu-ray. Et donc ce qui est intéressant, on va le voir aussi au fil des extraits, au fil des films qu'on va évoquer, c'est... On montre le quotidien d'acteurs, mais qui sont pas du tout flamboyants, qui ont du mal à boucler les fins de mois. Le début du film, il y a personne dans la salle, ils sont dans une pièce. D'ailleurs, ils se demandent s'ils vont jouer parce que il y a quatre personnes, je sais pas.
Et, oui, c'est ça. En dessous d'un certain nombre, la pièce, la représentation est annulée. Ouais.
Voilà, c'est ça. Et ça, c'est vraiment le contexte du film, vraiment le quotidien de ces acteurs, et même la trajectoire du personnage de Brasseur. Qui à la fin, sans spoiler évidemment, mais en tout cas va accéder à des rôles plus importants, mais tout en ayant un manque de confiance en lui aussi, et puis un manque de confiance en lui peut-être aussi sentimental, amoureux, puisque c'est une histoire de trio, hein, puisque là on vient d'écouter la rencontre avec Bruno Kremer qui va un peu perturber un peu la relation qui est déjà perturbée d'ailleurs avec le Brasseur.
C'est une fin d'histoire d'amour déjà. Voilà. Enfin, en tout cas,
entre Miu Miu et le Brasseur,
il y a une interrogation déjà de la part de Miu Miu de est-ce que je reste avec le Brasseur, quoi. Ouais, au-delà des galères de théâtre, hein, parce qu'elle est aussi comédienne. Donc oui, je trouve ça du finement écrit et interprété. Alors, c'est vrai qu'en plus, Brasseur joue un peu un loser, on pourrait dire, à la fois en amour, mais au théâtre, enfin en tout cas au départ, ce qui a peut-être rebuté un peu les spectateurs à l'époque, et puis de montrer ce milieu du théâtre qui galère, me semblait assez neuf pour le coup, et assez réel, assez réaliste. Je trouve que oui, en plus au début des années 80, le cinéma français est assez réaliste en fait, que ce soit dans la comédie ou aussi dans la comédie pour le coup, que dans le drame en fait. Il y a, ouais, c'est le contexte peut-être, et pourtant la rigueur, c'est Mauroy, c'est 83 je crois, mais c'est on a eu deux chocs pétroliers, enfin je pense que tout ça joue un peu, et c'est pour ça que c'est intéressant d'explorer des décennies, parce qu'on voit comment ça peut avoir un impact. Là je vais sortir Tir groupé en décembre, qui est un film qui on pourrait dire découle de l'abolition de la peine de mort de Badinter en 81 ou 82. Voilà, il y a eu des films un peu vigilantes qui ont suivi. Tir groupé sort le même mois que Légitime défense, violence,
Serge Leroy.
Sur le même mois. Films sur le même sujet, mais ils sont pas concertés, quoi. Donc je pense que toujours lié au contexte politique et sociétal en France, c'est hyper intéressant de se pencher là-dessus.
Ouais, on voit parfois qu'il y a des vagues de polar,
il y a un renouveau du polar, qui je pense démarre avec La Guerre des Polices en 79. Ouais. Cette espèce de côté, j'avais mon gros flingue et puis j'ai des jeans et baskets et on n'est plus en costume. Enfin, ils vont tous. Il y aura La Balance qui va être un marqueur. Mais même Belmondo, quand il fait Le Marginal, il a un look basket. Et je crois, c'est ça. Donc pour La Peau d'un flic, qui est la première mise en scène de Long. Alors il a une veste, ok, mais il est en jean et baskets. On n'avait jamais vu de Long en jean et basket, quoi. Parce qu'il est cool, voilà. Là, il joue un détective frais, je crois, pour Le Point d'Infini, quoi, c'est ça. Mais il est jean basket, quoi. Ouais, donc, ouais. On sent qu'on n'est plus dans les années 70, quoi. On est début 80, on est cool, quoi. Donc, j'aime beaucoup le film, hein. C'est au-delà de ça, mais je me moque un peu. Mais il y a cette tendance-là de flic un peu plus cool, et voire borderline. Si on peut dire que Le Marginal est borderline, enfin ça reste très gentil, quoi, mais il joue un rebelle, quoi, un flic marginal. Mais voilà, donc oui, il y a une vraie tendance forte de polar et de renouveau du polar.
Il y en a plusieurs dans cette, ouais. dans cette première oui. série de films qui sortent, et notamment bah, Le Choix des Armes aussi, voilà, mais qui est, Le Choix des Armes, c'est presque un classique finalement du polar français aujourd'hui, non ?
Oui,
peut-être
oui.
moins que Série Noire, mais en tout cas...
Alors, moins que Série Noire, parce que je pense qu'il a ce côté un peu package, grande star, montant, Depardieu, Deneuve... Que Alain Sardes voulait faire un film de prestige, voilà, hein, du samedi soir au cinéma, et alors que Corneau raconte un peu autre chose, je trouve, mais et puis il clôt une trilogie avec Montand, hein, sur le je dirais la spirale de la violence, et qui est initiée par Police Piton et La Menace, et là il ouais. finit là-dessus.
Police Piton et La Menace sont presque à l'américaine quelque
ouais.
part.
Et là non, là ouais. c'est un film franco-français. C'est-à-dire qu'en plus Montand et Jean Rougerie sont des personnages qui dans des anciens truands, quoi, mmh. avec un code mmh. d'honneur, tout ça. Et de l'autre côté, il y a Anconina et Depardieu. Qui sont des truands d'aujourd'hui, qui n'ont pas de code d'honneur, qui habitent en banlieue, on voit les grands ensembles, alors qu'on voit bien que Montand et Jean Rougerie, ils parlent de Pigalle, ils parlent de qu'il y a une vraie... Et on sent la volonté à la fois, je trouve, de Corneau, de rendre hommage au film de Granger, du Vivier, voilà, ces espèces de truands ou en couleur, on va dire, des années 50, voilà, 60, et de mettre les pieds, clairement... dans la vie de 1980, quoi. Donc les loubards, il y avait ouais. des truands, il y a des loubards, et donc il y a se confronte ces deux trucs là
et le loubard, c'est Depardieu, enfin, ouais, c'est l'incarnation ouais, ouais. du loubard,
ce qui est délirant, parce qu'il joue un loubard hyper dangereux, quoi. Et je crois que 6 mois ou un an avant, il joue l'ennemi public numéro 1 dans Inspecteur la bavure. Et je crois avoir vu une interview de Corneau qui expliquait que Depardieu était un peu réticent à jouer dans Le Choix des Armes, parce qu'il venait justement d'en faire un, de truands, enfin d'hommes dangereux. Et donc c'est marrant, quoi. Enfin, c'est Depardieu de l'époque, il fait Le Dernier Métro, L'Inspecteur de la Bavure la même année. Enfin, je veux dire, quel acteur fait ça, quoi. Donc, et ouais, Le Choix des Armes, c'est un film hyper intéressant sur une volonté de renouveler le polar français. Ce que fait Claude Miller la même année, quasiment un mois après, dans Garde à vue. C'est-à-dire que lui et son chef-op décident de moderniser le polar, mais avec des acteurs de la génération d'avant. C'est hyper intéressant. Hein. Et moi, j'en avais discuté avec Claude Miller, et il me disait, bah oui, on était là, mais il y a des hyper jeunes, produits par Alexandre Mouchkine, qui était déjà très âgé. Et Claude Miller s'oppose à Michel Audiard, qui est le scénariste star, en lui disant, non, mais là, il y a trop de dialogue, on va couper. Non, Michel Audiard, on lui a jamais fait ça, quoi. Donc, ils vont se prendre la tête, mais ils vont quand même retourner Mortal Randonnée 2 ans après. Donc, parce que Audiard, en voyant Garde à vue, se dit, ah ouais, mais il a raison, en fait. Il a compris ce qu'on voulait faire. Et donc ça, c'est hyper intéressant. Ce choc des générations, mais qui match, en fait. Parce que c'est pas un choc, c'est une entente de générations différentes, mais que Corneau a déjà amorcé dans Série Noire. Il en parlait quand il confronte Bernard Blier à Devers, et Blier était pas perdu, mais bluffé, quoi. Ah oui, d'accord. Mais bon, Bernard Blier était déjà coutumier, parce que il voyait les films de son fils. Ouais. donc voilà, mais ouais, je trouve ça hyper intéressant, ces transitions là, de ces passages de témoins entre générations d'acteurs, mais aussi de metteurs en scène. C'est hyper intéressant à voir, en fait, avec le recul. Avec le recul.
Et puis bon, d'ailleurs Montand le dit dans les bonus, voilà, cette idée d'un film qui raconte des choses sur l'époque que nous traversons, il le dit dans les bonus, enfin, c'est, et quelque part voilà, Le Choix des Armes aussi rejoint cette idée là et puis des films en cinémascope, c'est un film en cinémascope.
L'image
change aussi.
Oui, clairement. On a du mal à trouver 10 films tournés en scope dans les 70. Hein. C'est vraiment compliqué. Alors que là, il y a un vrai retour, quoi. Claude Miller va s'y mettre aussi plus tard. Parce que Lecomte va quasiment tourner tous ses films en scope. Il y aura Benex, il y aura Besson, évidemment. Voilà, donc il y a quand même beaucoup de cinéastes qui reviennent au scope. Même Gérard Jugnot, il fait Scoot toujours en cinémascope. J'en ai parlé avec lui. Bah oui, et puis je veux le faire le film en Dolby Stéréo. Et le choix des armes est aussi un film en Dolby Stéréo. Donc il y a, c'est encore timide, hein, les volontés de créer des univers sonores plus complexes dans le cinéma français. Tous les films sont en mono. Et là, il y a, donc je crois qu'il y a un vrai changement, ouais, clairement, à ce moment-là, technique. Avec les Français, il y a deux Français qui inventent la Luma. Il y aura un début d'utilisation de Steadicam dans certains films français, Coup de torchon et Pour sembler t'as plus rien. Je pense que oui, il y a une curiosité et un appétit pour changer un peu la manière de faire les films techniquement.
Voilà, c'est aussi ça, les années 80 dans le cinéma. On enchaîne avec un autre titre. J'ai un extrait qui est un peu long, mais en même temps, voilà, c'est une scène de confrontation. Presque aussi un monologue de Piccoli, c'est Une étrange affaire. Bon, c'est un film, peut-être un des films phares de cette première salve de la collection, parce que c'est un film de Pierre Granier de Fer. C'est presque peut-être un de ses meilleurs films, peut-être son meilleur film à Pierre Granier de Fer.
J'ai petite passion pour le chat quand même, mais
La Cage aussi peut-être que tu
La Cage, c'est un film intéressant, mais Une étrange affaire, c'était un cinéaste qui était a priori sur la fin de sa carrière, et puis là il sort ce joyau et en plus on en parlera peut-être, mais qui s'est tourné très vite à l'arrache, en mode commando quasiment, pour aboutir à ça, quoi. Et je trouve que le film a pas vieilli. En plus il dégage une force hallucinante. C'est peut-être dans l'extrait que tu as choisi avec Piccoli, mais voilà, on est bluffé même en le revoyant.
Ouais, complètement. Bah voilà, il y a beaucoup de scènes. Bon, j'en ai pris une comme ça qui est peut-être un peu connue, que c'est une des premières rencontres, dialogue entre Piccoli et Gérard Lanvin. Donc je situe juste Piccoli qui joue un patron et Lanvin son employé. Et voilà, on écoute et puis on en parle après.
Louis. Je vous appelle Louis parce que c'est quand même moins affreux que Colline. À votre avis, ça sert à quoi la publicité?
Ça sert à faire vendre.
Bon, je vais m'expliquer autrement. Pour moi, les magasins tournent mal. Le chiffre d'affaires n'est pas mauvais, je sais bien. Mais on joue petit bras ici. Je me suis donné un an pour redresser la barre. Faut être les premiers, Louis. Les premiers. Sinon, à quoi bon? Hein? Quoi? Vous pensez aux grandes surfaces? Sachez, Louis, que je n'ai pas l'intention de me laisser enculer par les mammouths. Et nous avons des atouts. Un emplacement inestimable, la diversification de nos produits, et enfin les vendeurs, parce qu'ils sont épatants, les vendeurs, vous savez. Ils sont en première ligne. S'ils flanchent, on s'écroule. François Lang m'a signalé un peu de coulage ou quelques défaillances isolées. Mais Paul réglera ça. Nous, notre travail, il est très simple, Louis. Trois phases. Solde de printemps, quinzaine de blancs, Noël. C'est là, et pas ailleurs, que se réalise notre chiffre d'affaires. Et c'est là, Louis, que vous intervenez. Je vous écoute.
Vous pensez pas que Monsieur Doute devrait assister à notre entretien?
Il va falloir que je vous parle un peu de moi, Colline. Un de mes premiers postes, disons une banque, j'ai attaqué le billet en tête. J'ai trié, choisi, saqué. C'était l'époque de l'efficacité américaine. Les bons d'un côté, les autres dehors. Et un jour, un des autres, 15 ans d'ancienneté, femme malade, trop d'enfants, s'est rebiffé. Il s'est suicidé. Voilà. Alors, Doutre, vous le mettez au courant, mais c'est à vous que j'aurai affaire. Sa supériorité hiérarchique résidera, en ce qui nous concerne, simplement dans la différence de salaire. Ce qui veut dire, Louis, une disponibilité de tous les instants. Et la remise en cause incessante de tout et de chacun. Et avant tout, des idées. Des idées, des idées, des idées.
Voilà, vous écoutez Contrebande, émission de cinéma de Radio Libertaire, 89.4, et nous avons écouté un extrait d'Une étrange affaire, le film de Pierre Grailly-Defer avec ce face-à-face, Michel Piccoli, Gérard Lanvin. Donc on en parlait un petit peu pendant l'extrait, mais voilà, le film, il est... voilà, c'est un film qui passait à l'époque, un film qui paraissait comme du cinéma très classique de Pierre Grailly-Defer, qui passait à la télévision après sa sortie, hein, dans les années 80, puisque c'était une coproduction Antenne 2. Mm. Et puis,
il est peut-être même passé dans les dossiers de l'écran avec un débat derrière.
Voilà, c'est bien, c'est fort possible. C'est vraiment, ouais. Et puis aujourd'hui, c'est vrai qu'on se rend compte que le film aussi, il est très moderne parce qu'il parle du, de ce qu'on disait, le harcèlement moral, le management toxique, ouais. Avec ce patron qui s'insinue dans la vie de cet employé. Mmh. Voilà, qui va même jusqu'à faire en sorte qu'il se sépare de sa femme, qui est jouée par Nathalie Baye. Ouais. C'est ça l'étrange affaire.
Oui, c'est assez dingue et c'est tout à fait ça. C'est un film qui paraît un film commercial avec des vedettes pour une diffusion après en télé. Et en fait, le film est beaucoup plus que ça, quoi. Et raconte ce film date de 81, un management toxique. Qui est un concept qui fait pas du tout l'actualité au jour le jour. Donc aujourd'hui, on parle quasiment que de ça et de la valeur du travail et qu'est-ce qu'on veut donner comme sens au travail. Et là, on est en 81. Donc et puis évidemment, il y a aussi Piccoli, quoi, qui est un acteur fabuleux et tellement inquiétant, mais dans beaucoup de choses, quoi. Dans Le Prix du danger, c'est pareil.
Ouais. Et il porte le même nom.
Oui, ouais. C'est ça. C'est que Yves Boisset avait adoré le nom de Piccoli.
Malher.
Dans Une étrange affaire, qu'il a demandé à Grailly-Defer de reprendre le nom pour le présentateur, espèce de Jacques Martin outrancier. Non, c'est pléonasme. dans Le Prix du danger. Alors, c'est ce qui n'est pas tout à fait pareil, mais c'est Malher aussi, quoi. Et c'est vrai que le nom est tellement inquiétant que je comprends que Boisset soit ait eu envie de ça, quoi. Donc oui, je suis très content. Ça me paraissait une évidence qu'il soit dans la première vague. Il y a quelques films comme ça qui me semblaient évidents, Rue Barbare par exemple, parce que je voyais bien qu'il y avait une attente autour de ce film. On en parlait beaucoup. Et puis c'est un film important pour la carrière de Giraudeau. Enfin, avant, c'était un jeune premier, le gendre idéal. Et pas dans Rue Barbare. Voilà. Mais c'est vrai qu'Une étrange affaire me paraissait évident comme film majeur de la décennie qui commence. Et j'ai l'impression que oui, tout le monde. J'ai eu pas mal d'échos. Je dis, ah, super, Une étrange affaire, chef-d'œuvre de Grailly-Defer. Quelle bonne idée.
Alors, parler de ces films-là, ça pose aussi des questions de production. Et alors là, on est aussi peut-être dans l'anecdote, mais en même temps, c'est très intéressant la manière dont ce film-là a été produit. Tu commençais à en parler tout à l'heure, mais en fait, il a été produit entre deux films. Enfin, bon, il y a un film, Le Toubib, qui n'avait pas du tout marché.
Non.
Donc, après, il y a un projet plus ambitieux, en tout cas pour Pierre Grailly-Defer, qui est L'Étoile du Nord.
Qui est L'Étoile du Nord, chez le producteur Alain Sard. Alors, il commence à tourner, je ne sais pas si vous vous souvenez L'Étoile du Nord, mais ça commence par quelques scènes en Égypte. Mmh. Et en fait, en retour à Paris, Simone Signoret, qui doit jouer dans les autres scènes, est hospitalisée. Et donc, le film est suspendu, en fait. Donc, et Grailly-Defer avait très envie de faire Une étrange affaire. Un livre adapté de Jean-Marc Roberts, et personne n'en voulait, en fait, de ce projet casse-gueule. Et Sard, un peu obligé, en attendant la convalescence de Signoret, lui dit « Bon, faites Une étrange affaire ». Ils ont écrit en 3 semaines, ils ont tourné en 6 semaines. Et le film est sorti en décembre, à l'arrache, fin décembre. après avoir eu le prix Xavier de Luc. Il n'y a pas de prix Xavier de Luc, heureusement.
Louis de Luc, pardon.
On est samedi. Et le film va avoir de super critiques, quoi. Donc, j'ai l'impression quand même, même s'il a eu de bonnes critiques, il a pas été considéré pendant assez longtemps comme un grand classique, je pense. Mais c'est vrai que tu en parlais tout à l'heure, c'est sans doute le meilleur film de Granier de Fer, quoi. Alors qu'il est déjà, même L'Étoile du Nord sera un très bon film, hein, pour le coup, mais ouais, voilà, sa carrière est plutôt derrière lui à ce moment-là, quoi. Donc, mais voilà, c'est une espèce de baroud d'honneur et une impulsion, un film à l'arrache, quoi, et on tombe là-dessus, quoi. Donc, je suis très content qu'il soit dans les premiers titres de la collection.
Et puis, ça pose aussi la question de ces fameux bonus et de ces archives, parce que on a un extrait. Bah, je crois que c'était pareil pour Le Choix des Armes d'ailleurs, de ces petits making-of que Antenne 2 diffusait à l'époque, parfois l'après-midi.
C'est-à-dire que comme Antenne 2, à partir du début des années 80, a un statut de une boîte de production, enfin, peut produire des films. Ils disent tiens, on va faire la promo aussi de nos films, on va faire des making of, comme ça quand le film sort on diffuse les making of. Alors le jeudi à 17h40, pas grand monde qui a dû voir ces trucs là après un épisode de après Aujourd'hui Madame ou enfin je sais, et avant Récréa 2, quoi. Et je m'étais dit mais là, et donc il y a des making of qui dorment dans les archives de l'INA, donc proposons ces making of de 20 minutes, ce qui est le cas donc sur Une étrange affaire et sur Le Choix des Armes. Donc voilà, j'étais très content de déterrer ces choses-là. Il en existe sur d'autres. Oui, il y en a un sur Pétrole de Christian Gion. Peut-être moins indispensable, mais quand même. il y a Bernard Blier et Jean-Pierre Marais.
Bernard Blier en émir, oui, si je me souviens bien.
C'est ça. Donc, je pense que tu as éveillé la curiosité de certains pour aller voir ce film de Christian Gion. Et il y a Jean-Pierre Marais qui est formidable aussi. Et bref, mais ouais, ça me semblait important de montrer aussi que les chaînes avaient... les making-of, ça date pas d'aujourd'hui ou des années 2000 quand on faisait plein de making-of parce que c'était le DVD vendait et tout ça. Il y a eu des tentatives, voilà. Donc il y en a un sur la guerre du feu qu'on a déjà vu, quoi. Et donc là, ça dormait depuis 40 ans. Et personne les avait vus le jeudi à 17h40. Donc je me suis dit mais allons-y, quoi. Donc beaucoup de plaisir à déterrer ces deux pépites.
Alors on parlait de production, c'est une décennie où il y a un nouveau schéma de production qui va arriver dans le cinéma français, puisque Canal+ arrive en 84 et va modifier totalement le financement des films, puisque voilà, c'est un peu la matrice, c'est un peu le cœur de ce qu'on connaît aujourd'hui avec Canal+ qui finance énormément de projets, et puis les filiales des chaînes, que ce soit TF1, Antenne 2 à l'époque, FR3, voilà. Toutes ces chaînes ont des filiales cinéma.
Puis avec des envies différentes, hein. FR3, c'est depuis 75 qu'ils peuvent produire des films, mais donc TF1 et Antenne 2, c'est au début des années 80. Et Antenne 2 a une volonté, de films de prestige, presque auteur, alors que TF1 a déjà une volonté d'avoir, ils vont produire pour Sans Bruit T'as Plus Rien, plutôt des comédies. Hein. Mais c'est un peu ça. Ce qui est encore le cas aujourd'hui, hein, on voit bien la politique de production des chaînes. TF1, M6 font plutôt sur des comédies. Et France Télé, avec Manuel Alduy, produit Le Dernier Ozon, par exemple. Enfin, en tout cas, participe à la production de films, voilà, qui semble important, d'émissions de service public, quoi. Donc c'était déjà le cas. Évidemment, Canal+, qui arrive en novembre 84, on fait les 40 ans justement ces jours-ci, a une obligation de participer et à la production des films. Et c'est vrai que dans Golden Days, le livre dont on parlait tout à l'heure, c'est clairement dit par plusieurs producteurs, c'est-à-dire qu'il y avait le guichet Canal+ qui permettait de produire, de donner des feux verts, en fait, parce qu'ils avaient des obligations de production. Donc c'est vrai que la donne est complètement changée. la télévision est pas du tout, à part des films comme les films de Delon ou de Belmondo, ils n'ont pas besoin des chaînes de télé. Hein, clairement, les As des As, tout ça, enfin, c'est pas des films où il n'y a pas besoin de télé, quoi. Mais le reste, oui, il va être très dépendant de la télévision, ce qui est pas du tout le cas dans les années 70. Donc il y a vraiment un, et ça produit des films différents, de toute façon. À l'écriture et voilà, aux moyens et les acteurs aussi, certains vont devenir des valeurs sûres du petit écran, donc on peut produire des films plus facilement avec ces têtes d'affiche là. Donc voilà, c'est très très différent et passionnant à voir en fait.
Alors il y a des vagues, on le disait, de genre, notamment des polars qui arrivent dans ces années 80, notamment un autre polar dans un style autre, c'est le film de Gilles Béart, Rue Barbare, tu en parlais, qui est intéressant parce que, enfin, on apprend aussi dans les bonus en écoutant Gilles Béart, c'est en voyant La Lune dans le caniveau adapté de Godis qu'il a eu envie de aussi d'avoir son adaptation de Godis. On a plusieurs à l'époque.
Oui, oui.
Il y aura aussi Descente aux Enfers de Francis Giraud. Et puis, donc il fait ce film, Rue Barbare, qui est un film important pour Bernard Giraudot parce qu'il va lancer un peu, il va relancer un peu sa carrière. C'est un film essentiel pour lui à cette époque-là. Et c'est l'occasion pour nous, là, de parler des acteurs des années 80 et les acteurs qu'on croise dans ces films.
Oui, oui, c'est la même époque que Giraudot, Richard Berry et Lanvin émergent en tant que vedette. Et d'ailleurs, sur Tir groupé, en décembre, il y aura un documentaire que j'ai retrouvé dans les archives de TF1 qui s'appelle Les Jeunes Loups du cinéma français, qui est un portrait croisé de ces trois acteurs-là en 84, donc au moment où ils sont. Voilà. Ce sont les nouveaux acteurs en vue.
Berry, Lanvin, Giraudot.
Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais. Donc, et c'est vrai qu'ils vont être les acteurs principaux de la décennie, mais différents. Hein. C'est-à-dire que quand Lanvin et Giraudot font Les Spécialistes en 85, c'est un énorme succès, hein, 6,5 millions d'entrées, je crois. Lanvin, pour lui, il est arrivé où il voulait aller. C'est-à-dire qu'il devient un acteur populaire. C'est quasiment pas une obsession, mais c'est en tout cas une volonté de sa part de devenir populaire, comme l'ont été Belmondo, Ventura. C'est un modèle qu'il cite beaucoup. Et à l'opposé, Giraudot, il est arrivé là au maximum du cinéma populaire. Et ça n'intéresse pas, en fait. Donc, ce qu'il veut faire, c'est... il veut faire d'autres films, Poussière d'ange, il va faire voilà les longs manteaux, qui est une espèce de western tourné en Amérique du Sud. Il va passer à la mise en scène. Alors que le point de départ est le même pour les deux. Ils sont devenus deux acteurs immensément populaires, mais c'est pas du tout les mêmes aspirations. Et tous ces acteurs-là, enfin, je trouve que c'est une décennie où ces acteurs ont envie de faire à la fois des films commerciaux et des films d'auteur. C'est-à-dire que Sophie Marceau, elle casse son contrat à la Gaumont pour aller travailler avec Zulawski, quoi. Et personne ne comprend. À la Gaumont, elle est folle. Elle est complètement folle. Mais non. Parce que peut-être que si elle avait continué, et puis ça n'aurait pas duré, parce que faire que des films commerciaux, ça marchait peut-être très très bien dans les années 70, de faire toujours la même chose. Là, il y a une volonté d'explorer et de mélanger les auteurs. Et Giraudot travaillera avec Ozon, quoi. Donc ouais, je trouve qu'il y a... Et c'est un phénomène qu'on retrouve encore aujourd'hui, quoi. Pierre Niney fait ça, Anaïs de Moustier. Enfin, une génération de comédiens qui peuvent se déplacer du jardin, peut travailler avec Dupieux, quoi. Je trouve qu'il y a... Et ça, il n'y avait pas ça dans les années 70, je pense. Dans les années 80, les acteurs n'ont pas envie de se laisser enfermer par le star system. On peut parler de Christine Pascal, qui au début des années 80 peut être une vedette aussi importante que Adjani ou Huppert, et finalement ça l'intéresse pas, en fait. Donc elle va faire de la mise en scène, elle va travailler avec d'autres cinéastes. Et ouais, je crois que c'est assez nouveau ce refus de... Mais c'est Michel Blanc en parlait. C'est chez Serge Danet, c'est une émission de Microfilm en 87. Il dit, mais Belmondo et Delon, c'est des immenses stars, mais ils sont prisonniers. C'est-à-dire qu'ils peuvent pas jouer autre chose. Moi, je peux faire ce que je veux. Je viens de faire Tenue de soirée, j'avais fait Marche à l'ombre un an avant. Et ça, j'ai trouvé ça hyper intéressant comme réflexion. Je suis pas une star, je suis un comédien qui peut aller Le public me l'a permis en me laissant faire tenue de soirée. Et pareil quand il fera Monsieur Hir. Donc il est libre. Alors que les stars sont prisonnières, en tout cas encore plus Delon et Belmondo, c'est vraiment deux stars bloquées dans leur... même si Delon essaye des choses à oublier dans notre histoire, ils sont coincés. Mmh. Parce que quand Delon fait notre histoire, le public ne veut pas voir ça. Donc c'était hyper intéressant d'écouter Michel Blanc. Je ne sais pas si c'est disponible sur le site de Radio France, cette archive. Une longue interview d'une heure entre Serge Danet et Michel Blanc, ça m'avait... dit, ah bon ? Mais que Serge Danet, ça l'intéresse d'interviewer Michel Blanc. et oui, en fait. Et
c'est microfilm.
Ouais, c'est microfilm. Ouais. Ouais. Mmh. Ouais. Ça doit être 86, 87, je pense.
C'est trouvable.
Je vous le recommande.
Et puis bon, bah, on va terminer ce panorama par les comédies, parce qu'il y a des comédies aussi dans cette première salve de Blu-ray chez Studio Canal, nos années 80. Donc évidemment, Le téléphone sonne toujours deux fois, Jean-Pierre Vergne, premier film des Inconnus, mais les Inconnus, qui s'appelait pas Les Inconnus.
Qui s'appelait pas Les Inconnus.
Ouais. Qui était 5 en plus.
Oui, oui, c'était Les 5. Voilà. Gros brainstorming pour le nom. Et puis après, ils vont s'appeler, quand ils vont être 4, les 4 quarts. Aussi, on rigolait bien. Et non, c'est intéressant parce que, évidemment, le film n'est pas très connu et a été un échec à sa sortie. Et c'est une rare tentative de faire du pastiche, ou du détournement, enfin de la parodie, comme on veut, dans le cinéma français, qui est vraiment pas un genre qui avait la cote. Hein, je parle souvent des WC de l'intérieur, qui avait été un énorme four aussi. Il faudra La Cité de la Peur et les OSS 117, mais c'est la comédie française, elle est pas du tout référentielle et détourne rarement les choses, quoi. Alors que les Anglais ont les Monty Python. Chez nous, ça marche pas, quoi. Enfin, en tout cas, ça marchait pas, quoi. Et donc là, ils ont une volonté de faire ça, de détourner un polar. C'est complètement un truc abscon. Je trouve le film très très drôle, avec des gros problèmes de rythme, mais voilà. Et c'est une tentative, voilà. Et dans les archives, ils sont interviewés en plateau avec deux journalistes qui comprennent pas ce que veulent faire ces petits jeunes, en fait. Il y a un vrai décalage.
Oui,
c'est méprisant, même. Oui, mais vous venez de chez Bouvard.
Très condescendant.
Ah, là, c'est horrible. Et j'ai trouvé ça très drôle, en fait. De se dire, mais non, mais on a essayé de faire autre chose. Et on fait pas du théâtre. Bien sûr, on vient du théâtre de Bouvard, de la télé, mais. Et les mecs ont pas compris le truc, quoi. Et ils sont très, condescendants, ouais. Donc j'aimais bien, j'ai trouvé savoureux cette.
C'est assez fou. En tout cas, plus que Bernard Campan et Pascal Légitimi sont très jeunes.
Enfin, oui, très jeunes. Mais ils se laissent pas faire.
Ils se laissent pas faire.
Voilà. Donc.
Ouais, complètement. Et puis voilà, c'est un film intéressant pour plein de raisons, notamment tous les seconds rôles qu'il y a dans le film. Voilà, c'est assez plaisant aussi à ce niveau-là.
Voilà, il y a Darry Cole, qui est aussi dans Pour son bruit, t'as plus rien. C'est incontournable des seconds rôles, Galabru et tout ça, ouais. Non, c'est vraiment, moi, j'aime beaucoup le film pour toutes ces raisons-là. Ouais.
Et puis l'utilisation, enfin, il y a beaucoup de décors dans ce film. Mathieu nous a rejoint, on va en parler, on va parler de d'autres films et d'autres décors, mais voilà. Mais en tout cas, dans ce film, il y a à un moment donné toute une scène dans un technicentre TGV. Il y a une scène de Nunchaku en plus.
Oui,
il y a une scène de combat. Et c'est assez drôle.
Didier Bourdon a ce t-shirt. Mais j'ai deux passions, ça. Mon pays et Bruce Lee. Et beaucoup rire. J'aimerais bien trouver ce t-shirt. Si quelqu'un en a un. Mais oui, il y a une scène de Nunchaku dans un technocentre TGV.
Oui, TGV était encore orange. Parce que c'était vraiment le tout début des TGV dans les années 80. Ouais. C'était juste arrivé.
Donc, oui, il y a une volonté de montrer des lieux de Paris. Il y a ça aussi dans Tir Groupé. Gérard Lanvin va au McDo.
Oui.
Sur les Champs-Élysées. Et je pense que c'est encore exotique, en fait.
à l'époque.
À l'époque. Ouais. Encore plus en province où il y en avait moins. Donc, ouais, il y a une volonté d'ancrer les films dans la modernité du moment. Ouais.
Et on s'écoute pour terminer un extrait de Pour son bruit, t'as plus rien. On a écouté un petit extrait pour le plaisir.
Attends, j'ai deviné. C'était du rôti de porc.
T'as vu l'heure?
Tu vas pas recommencer. Paul, je te vois là. Paul, fais pas la gueule.
Je ne fais pas la gueule.
Je travaille toute la journée, moi. J'ai faim.
Tu me reproches de pas travailler, c'est ça?
Mais pas du tout, non.
C'est pas de ma faute si je bosse pas.
C'est la mienne, peut-être.
Si c'est comme ça, moi je me casse. Je me casse. Et essaie pas de me retenir. Paul. Bon, à table.
J'ai jamais rien mangé d'approchant, là, tu vois.
T'en veux pas ?
On regarde, mais on ne touche pas.
Voilà. Si t'étais rentré à l'heure, non seulement le rôti n'aurait pas cramé, mais la sortie des attaches, tu l'aurais bien mieux vu à la télé.
Bon, d'accord, on voit mieux les tailles, si tu veux, mais y a pas l'ambiance.
Mais on comprend ce qui se passe, c'est comme pour le rugby.
À l'aise, les mecs. 500 briques, joyeux Noël et ciao tout le monde.
Ils vont se faire gauler.
Tu paries combien ?
Évident, c'est évident qu'ils vont passer Noël en cabane.
Tu paries ?
Qu'est-ce que tu veux, toi ? Tout ce que j'ai. Pour finir l'année, tiens, 15 francs 20.
Pari tenu.
Ok.
On fait moitié-moitié ?
Oui. C'est ça, la conception de la société.
Bonsoir. Du nouveau dans l'affaire de la prise d'otage de l'avenue Junot. Je passe immédiatement l'antenne à notre envoyé spécial, Alain Plombac, qui se trouve quelque part dans Paris. Alain Plombac, pouvez-vous nous dire où vous vous trouvez en ce moment ?
Eh bien, je me trouve Porte Dauphine, où il y a quelques minutes à peine, les deux otages ont été libérés par les fuyards. J'ai à mes côtés l'un de ces otages, mademoiselle Nicole Chaubourg. Alors, terminée cette angoisse ? Comment s'est passée cette libération ?
Eh bien, nous avons roulé une grosse heure dans Paris. Ensuite, ils se sont arrêtés ici, ils sont descendus et ils sont engouffrés dans le métro.
Génial.
Mais dites-moi, 10 heures, c'est terriblement long. Comment étaient-ils avec vous ?
Ils étaient un petit peu nerveux, très tendus, mais non, très sympas finalement.
Ah bon ? Côté police, où en sommes-nous ?
Pour l'instant, nous avons perdu leur trace, mais je pense que dans les heures qui viennent...
Bref, ils se sont volatilisés.
Ne me faites pas dire ce que...
Et voilà, c'est tout.
On s'occupe de les sérieusement, voyez-vous.
Ils font chier, ces mecs. Non seulement ils coûtent 500 briques à la communauté, et maintenant ils mettent sur la paille, hein.
Voilà, vous écoutez Contrebande, Radio Libertaire 89.4, on écoutait à l'instant un extrait de Pour son brique t'as plus rien, le film d'Edouard Molinaro, d'après la pièce de Didier Caminca. Et puis, vous avez reconnu les voix, certainement Daniel Auteuil, Gérard Jugnot, Anémone. Donc, on en parlait un peu hors micro tout à l'heure, cette idée que, à travers ce film... Finalement, on a une comédie, avec deux types qui vont organiser un hold-up, mais qui sont ancrés dans un milieu très très modeste, un milieu désargenté, qui va les pousser à ça. Et on n'est pas dans les appartements avec vue sur Tour Eiffel, dans les comédies d'Yves Robert, comme tu disais.
Oui, Jérôme. C'est ça. Ils galèrent, quoi. Ils ont des galères de fric, de logement, ouais. De travail, de chômage, quoi. Donc c'est pareil dans Viens chez moi, j'habite chez une copine. Et c'est un peu ce que vont développer les gens du Splendide quand ils se séparent en 80, 70, enfin oui, en 80. Et donc, je trouve ça hyper intéressant. Et même Molinaro le défendait. C'est-à-dire qu'on fait une comédie, mais sinon sociale, ancrée dans le réel, en fait. Donc, des galères des jeunes qui rentrent sur le marché du travail à cette époque-là, après deux crises pétrolières et tout ça. Donc je trouve ça hyper intéressant. Et forcément, 40 ans après, on regarde ça comme une peinture plutôt réaliste. Il y aura ça aussi dans Marche à l'ombre, hein, quand ils montrent les squats et puis les galères, les mecs qui font la manche. Ça n'existe pas 10 ans avant, quoi. Il peut y avoir des films avec des clodos, tout ça, mais pas des gens qui galèrent, quoi. Donc, et Junio ira jusqu'au bout avec une époque formidable, pour le coup, en 91, 92. Donc, ouais. Avec un mec qui perd pied, qui perd son métier, qui perd sa famille et son travail. Donc, oui, je crois que ça a pas mal changé la manière de faire des comédies. Avec ces gens qui ont abordé le cinéma au début des années 80 et qui vont être les stars du cinéma de comédie dans cette décennie-là, qui est aussi lié au fait que De Funès disparaît, que Pierre Richard est plutôt dans sa trilogie avec Weber, donc il y a de la place, quoi.
Il y a
l'espace
pour ça.
Comme dans les années 70, quand Bourville et Fernandel meurent au début des années 70, ça laisse le champ libre à Pierre Richard, au Charlot, En tout cas une partie de la décennie, puisque après ça va moins faire d'entrée, mais voilà. Et puis De Funès aura un double infarctus qui va l'éloigner, une espèce de vase communicant. Le cinéma, c'est comme la nature, il a horreur du vide, donc il y a des choses qui arrivent. Et puis là, on parlait des inconnus, il y a ça aussi, quoi. Donc des gens qui viennent de la télé. C'est encore embryonnaire, hein. Ce sera plutôt un truc dans les années 90, voire 2000. Mais voilà, ça se renouvelle, et je trouve ça intéressant tous ces apports à la comédie, et les témoignages que ça laisse aujourd'hui, quoi, de la société française.
Complètement. Et puis voilà, c'est aussi un film intéressant, parce que première apparition
deuxième, on va dire, parce que Coup de torchon avec Pierre-William Glenn et Tavernier.
Pour des raisons de production.
Oui, là, c'est vraiment purement économique, c'est pour gagner du temps, gagner une semaine de tournage, ils ont tourné en Steadicam. Il y a les images de tournage en bonus, vous pourrez le voir. Voilà, pour gagner un peu d'argent et éviter de mettre des rails de travelling, enfin, je pense, parce que c'est quand même tourné en studio. Donc, il y a qu'un décor, hein, c'est quand même une pièce de théâtre au départ. Donc, c'est peut-être la seule pièce de théâtre tournée en Steadicam. un peu de ça. Mais oui, c'est hyper intéressant. Ces cinéastes qui se disent, mais utilisons les moyens techniques d'aujourd'hui, quoi. Et ça permet de raconter les choses différemment ou de manière plus économique. La révolution du numérique, ça sera aussi ça plus tard, quoi. Donc, de pouvoir tourner moins cher, plus longtemps. Donc, voilà, des choses comme ça, quoi. Donc, le montage numérique aussi. Et le film est très drôle, faut aussi le dire.
C'était un succès aussi de télévision. Un film passé très souvent à la télévision. Mais voilà, maintenant on peut l'avoir en Blu-ray. Comme les autres, hein, je rappelle les titres: Une étrange affaire, hein, de Pierre Garnier de Fer, Josepha de Christopher Franck, Pour son brique t'as plus rien, donc on vient d'écouter, on vient d'en parler, Rue Barbare de Gilles Béat, Le téléphone sonne toujours deux fois de Jean-Pierre Vergne, Le choix des armes d'Alain Corneau, et puis bientôt, donc on l'a dit, Tir groupé, je crois qu'il y a Détective de Godard bientôt aussi.
Oui, il y a Pile ou face de Robert Enrico, qui est un film intéressant aussi, un polar avec Serrault et Noiret. Et Le Grand Pardon d'Alexandre Arcadie. D'ici le mois de mars.
Très bien, très bien. Ben, merci beaucoup, Jérôme Ouibon, pour avoir parlé de ces années 80 dans Contrebande avec nous. Et puis, il y a un truc que je voulais qu'on écoute, parce que finalement, j'avais réfléchi aux pauses musicales, on n'en a pas fait beaucoup. Il y a évidemment des musiques qu'on retrouve dans pas mal de ces films, hein. Je pense à Murrayhead, justement dans Pour son brique t'as plus rien, qui signe la BO. Et puis il y avait aussi Bernard Lavilliers
pour Rue Barbare.
Et puis, alors j'ai trouvé quelque chose qui n'a rien à voir avec tout ça. Mais ça m'amusait de passer ce titre parce que en fait il y a pas que les films qui sont parfois invisibilisés ou qui sont méconnus, etc. Il y a aussi des chanteuses qui ont des trajectoires assez intéressantes. Et en fait, en repensant à Une étrange affaire de Pierre Garnier de Fer, j'ai repensé à une chanson qui s'appelle Étrange affaire, qui est sortie en 1984, donc 3 ans après la sortie du film de Garnier de Fer. Bon, rien à voir avec le film, hein. Je vous le dis tout de suite. Il y a que le titre qui est commun, parce que c'est une reprise, en fait, d'une chanson qui s'appelle Foreign Affair de Michael Field. Donc, mais cette chanteuse qu'on va écouter là, qui s'appelle Wallis Franken, a une vie très rocambolesque. Elle est née en 47, elle est morte très jeune, à 48 ans, en 1996. Et elle est morte parce qu'elle s'est suicidée, malheureusement. C'était une top modèle, c'était une chanteuse, mais elle était née à New York, elle est arrivée en France dans les années 60, en 66. Et elle avait sorti un premier disque composé notamment par William Scheller en 69. Elle a été mariée dans sa vie à un pilote de Formule 1. Elle a été mariée à un couturier, Claude Montana. Et puis elle apparaîtra même dans Jeux d'artifice de Virginie Thévenet. Et puis elle sort en 84 ce titre, Étrange affaire. Je me souviens avoir entendu cette chanson. Donc évidemment, cette chanson, plus personne s'en souvient. Mais voilà, de penser au film de Garnier de Fer m'a refait penser à ce titre. Et je voulais qu'on l'écoute un peu pour faire la transition avec la suite. Voilà, Wallis Franken, il s'appelle Étrange affaire.
Étrange.
Voilà, vous écoutez Contrebande, émission de cinéma de Radio Libertaire 89.4, et on s'est fait un grand revival années 80 en cinéma et en musique avec cette chanson donc de Wallis Fronten.
Dont je me souviens.
Ah voilà. Et donc je pour terminer, Jérôme, j'ai pas cité, mais donc parce que Sylvain Perret est venu dans cette émission pour parler aussi de son travail sur les éditions Gaumont.
Oui.
Et donc vous avez un podcast ensemble.
Oui, oui, qui s'appelle Soyez sympa rembobiné, avec une diffusion très 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 aléatoire. Donc quand on a le temps, on enregistre un podcast et on parle du cinéma, la révolution du cinéma à la maison sous différents angles, notamment par exemple la création de la dernière séance d'Eddie Mitchell, genre aujourd'hui, et son impact que ça a eu sur notre génération. Voilà, donc on fait ça de temps en temps, ça s'appelle Soyez sympa rembobiné, c'est disponible partout. Et la musique est pas mal.
C'est la même musique que Contrebande.
David Shire, les pirates du métro, pur hasard. Voilà. Merci.
Très bien, en tout cas merci Jérôme. Et pour être un peu complet, voilà, on écoutera du coup, je pense à la fin de cette, juste avant 21h, un petit extrait de l'interview de Jean-Claude Missian, qui était venu dans cette émission, qui vient de disparaître, et donc qui a réalisé notamment Tiers Groupé, qui fera partie de la collection Nos années 80 en décembre. Et donc ce sera cette archive, on la passera à la fin. Et évidemment, si vous voulez réécouter un peu toute cette interview de Jean-Claude Missian, elle est sur notre SoundCloud, où figurent toutes nos archives radio de Contrebande. Voilà. Mais on passe à Matché. Bonjour, bonsoir Matché.
Bonsoir.
Tu es brésilien et tu es chef décorateur.
Tout à fait.
Au cinéma. Tu appelles ça d'ailleurs quoi, production designer, pour utiliser un titre anglo-saxon.
Ouais, en effet. L'idée, c'est pas l'attirance pour la question de fait d'être anglo-saxon. Ça a beaucoup plus à voir avec quelque chose. C'est un élément qui m'a attiré. Bon, je suis brésilien, je suis arrivé à Paris en 2008 et en 2009 j'ai intégré la FEMIS et c'est quelque chose c'est une école incroyable sur laquelle on est non seulement invité à exercer notre métier, mais comme aussi à réfléchir à propos. Et en fait, ça vient beaucoup d'une réflexion pendant cette période-là. Même par rapport aux discussions qu'on avait, que ce soit avec le corpus de l'école ou entre les élèves. C'est vrai qu'en déco, on était, en tout cas à mon époque, on était encore en minorité numérique, on peut dire comme ça. On était deux dans les promotions, qu'il y avait six personnes sur tous les autres corps de métier. Mais voilà, donc en réfléchissant, c'était un peu aussi le sujet de mon travail de fin d'études à l'époque, que de l'idée, c'est pas d'aller nécessairement contre, mais le fait que on appelle ça chef décorateur en France peut induire à une erreur, si on peut dire comme ça, comme si l'idée c'était que on devait remplir le cadre. Et je pense que l'expression production designer, elle est beaucoup plus juste, dans le sens où quand on pense ce métier, on pense en trois piliers. On pense la création artistique, sans doute, mais on pense aussi la logistique et les côtés productifs, disons la fabrication elle-même. Donc ces trois éléments-là, et ces trois éléments qui sont typiquement quelque chose qui font partie du design, si on prend un petit peu de recul, si on réalise ça et qu'on regarde ça d'un point de vue plus global. Donc à mon avis, c'est juste que la expression production designer, elle est beaucoup plus juste avec le métier que nécessairement la décoration.
Et ton travail commence à la lecture du scénario, on pourrait dire ça. C'est vraiment en lisant le scénario, tu commences à imaginer, pour faire des propositions, quelle pourrait être l'identité visuelle du film qui va se tourner.
Oui, tout à fait. C'est vrai que c'est un peu un travail de l'ombre et que du coup les gens n'ont en général pas trop cette approche. Bien sûr, je ne parle pas de toi, que toi tu connais ça super bien, mais de façon globale, on travaille un peu dans l'ombre. Et en effet, oui, le travail, c'est un travail de composition. Du visuel, d'où l'univers du film, tu vois. Si on pense les films d'une façon globale et que, à partir du moment où on met l'œil à travers de l'œilleton d'une caméra et qu'on enregistre le son, donc on passe la réalité par la machine. Et c'est quelque chose que même Brisson parlait beaucoup de ça, si tu entends ses entretiens et tout ça. Mmh. C'est déjà où il disait que la caméra est une machine où on va chercher quelque chose que l'œil ne peut pas voir. Donc et je pense que ça a à voir avec ça, c'est une réalité composée. Donc c'est pas du tout réaliste ce qu'on présente, indépendamment de je pense qu'on peut parler de vraisemblance, mais on ne peut pas parler de réalisme. Mmh. Parce qu'on est toujours en train de composer ce qui se passe à l'intérieur. Et disons que, en tant que décorateur, notre travail, c'est d'essayer de travailler avec le chef opérateur et le réalisateur pour que, d'un point de vue visuel, l'histoire puisse être racontée, que le scénario il puisse fluir aussi, par tout ce qui est volume, lumière, visuel, dans la partie visuelle de cinéma, bien sûr, qu'après il y a le son, qui est un frère indissociable, sont les jumeaux qui composent cet art-là. Mais du côté visuel, c'est ça. On va, dès la lecture de scénario, commencer à travailler de qu'est-ce qui peut être cet exercice de penser en réalité qui exclut tout ce qui est en dehors des quatre lignes de l'écran, quoi.
Alors ça, c'est la base du travail, mais après, c'est vrai que tout dépend avec qui tu travailles, quelle est la personnalité du réalisateur ou de la réalisatrice. En tout cas, c'est une donnée importante. Est-ce que il ou elle s'intéresse aussi à ça, à quelle identité visuelle il ou elle veut donner aussi? Et il y a notamment dans ta filmographie, en tout cas dans les films sur lesquels tu as travaillé, j'allais dire presque deux sortes de films. Il y a des films qui sont de la pure du pur imaginaire presque, et puis des films qui sont un peu plus réalistes, qui font avec des décors, en tout cas qui sont un peu des décors du quotidien. Donc on peut parler de ça, des exemples un peu concrets, notamment du premier gros film, je crois que c'est le premier sur lequel tu as travaillé, c'est le film de F.J. Aussand, Neuf Doigts, qui était pour le coup la première catégorie, qui était une catégorie de l'imaginaire, de l'imagination, puisque F.J. Aussand, c'est un cinéaste qui est connu pour ça, pour avoir travaillé des histoires très 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 forte du point de vue de l'imaginaire, on va dire. Et pour ce film là Neuf Doigts, il fallait notamment imaginer une histoire sur un bateau, sur un cargo. C'était ça aussi les décors principaux du film.
Tout à fait. Le film de FJ, qui aujourd'hui est devenu une personne très chère pour moi, en plus, qui est cette espèce de incroyable, notable, inconnu du cinéma français.
Très charismatique.
Exactement, poète, musicien, qui va faire des films, en plus pendant toute cette époque dont vous parliez juste avant dans l'émission, dans les années 80, où tu avais un cinéma beaucoup plus tourné vers la vraisemblance et la réalité. Tu avais Aussang qui courait par la piste d'à côté avec son cinéma complètement punk. Et
Le Trésor des îles Chiennes, par exactement, exemple, ce genre de film, ouais.
Qui est le premier film de Darius Kondi et des gens Vincent Puzos, donc ce qui est assez impressionnant comme figure qui l'ont accompagné dans cette et après même au Docteur Chance où il va jouer avec quelque chose qui est très personnel et tout ça, mais en même temps en créant toujours un univers qui est très apocalyptique, qui est vraiment cet univers qui vient de No Future du punk, mélangé avec son adoration par un romantisme littéraire sur lequel tu vas entendre de paroles dans un film qui sont totalement de l'ordre de la poésie. Alors, ce qu'on voit, c'est un pays détruit, c'est le post-nucléaire, c'est le noir et blanc sombre dans donc qui pourrait être Murnau, que donc on va avoir qui va passer par des films comme The Dead Man, qui on va voir aussi aux États-Unis. Donc il y a une espèce de morphing incroyable. Et du coup, pour moi, en tant que décorateur, presque que j'arrive dans un lieu qui est établi par Hossang, c'est une énorme chance de travailler avec cet univers, non, d'un côté parce que ça me plaît énormément, j'en découvre en rencontrant Hossang et je découvre quelque chose qui pour moi qui m'a énormément touché, qui m'a fasciné en tant qu'univers parce que c'était vraiment large et en même temps même pour mon français, ça a été incroyable. Parce que, en lisant, j'ai dû vraiment m'investir à augmenter mon niveau de français, si on peut dire tout simplement, parce que le texte d'Hossang est un texte hyper, hyper pointu. C'est vraiment quelque chose qui est de d'un héritage du roman, c'est qui vient de sa poésie, qui va lire le punk, mais avec un œil de Céline, quoi, tu vois, c'est absolument fascinant. Donc, si d'une certaine façon, si je reçois dans un plateau d'argent la possibilité de travailler dans un univers qui est déjà riche et sur lesquels je pouvais venir choisir les éléments pour les composer selon ces films-là, quoi. C'était un plaisir et une aventure incroyable. C'était sans doute, en plus, Hossang, il crée dans son plateau une condition unique de vivre cet univers-là. Genre, c'était ma plus proche communication avec les acteurs de tous les films que j'ai fait, non pas parce que les autres ne donnaient pas cette ouverture en pensée, mais c'est juste parce qu'ils créaient les conditions pour ça, incroyable.
Et quelles étaient ses attentes en matière de décoration, de lui qui a déjà un univers artistique très fort, il fallait un peu il y avait un dialogue avec lui là-dessus.
On a fait une préparation longue, et justement la question du cargo, c'était très difficile, c'était un film fait avec très très peu d'argent. On a un annexe pour ceux qui ne savent pas, c'est des films à moins d'un million d'euros. Donc il y avait quelque chose de très complexe pour plusieurs raisons. La première, c'est que un cargo, c'est quelque chose, c'est un décor presque inatteignable, parce que tu peux pas arrêter un cargo pour tourner, en tout cas pas dans des conditions comme ça.
Et ça coûte cher.
Ça coûte hyper cher. Donc on s'est rabattu sur un endroit sur lequel Hossang qui était déjà très cher pour Hossang, où il avait déjà tourné aussi les Trésors des îles Chiennes, qui sont les Açores, ces îles portugaises à un tiers de chemin entre le Portugal et les États-Unis, qui est au bord du volcan et qui est en repère des skippers. Qui est, disons, un point d'attache des bateaux qui partent de l'Europe et qui traversent ou qui vont avoir plusieurs points de navigation dans le monde. Donc là, à partir de 5 ou 6 bateaux, on en a créé surtout la partie extérieure de bateaux. Et au Portugal, on a travaillé dans un bateau musée qui était un ancien hôpital qui servait à la pêche de la morue. Et qui est... voilà, là on peut déplier l'histoire, parce que la pêche de la morue au Portugal, c'était quelque chose qui servait un petit peu le régime dictatorial, où il envoyait souvent les prisonniers politiques, parce que, genre, à chaque fois, un tiers des gens ne revenaient pas de la pêche de la morue. Donc, dans un bateau qui était hôpital, qui servait cette pêche-là, qui aujourd'hui est au musée, mais qui est encore sous l'eau, on a tourné tous les intérieurs. Donc, ces attentes d'eau sang, je pense qu'elles étaient, de ma part, que j'arrive un peu à ficeler ces conditions différentes. Et ces 3 mois de discussion qu'on a fait à table, ils étaient essentiels pour qu'on puisse se prendre tout ça. On a tourné à Pau, à Biarritz, aux Açores, à Lisbonne et après à Viana do Castelo. Donc on en avait vraiment une espèce d'énorme panneau. Et je dirais que mon travail, ça a été de garder, dans sens quelconque, cet univers de sang soit toujours là, présent, sur tout le long des passages de ces grands voyages qui a été le tournage de ce film.
Et j'imagine aussi que tourner en noir et blanc, c'était aussi, ça permettait justement pour un film avec pas beaucoup d'argent de masquer des choses et puis d'avoir un peu quelque chose quand on a beaucoup de décors comme ça, quelque chose d'uniforme presque.
Totalement. Jean-Vincent Puzos qui a commencé aussi avec Ossang, en plus tous les deux sont du Cantal, ils se connaissent depuis très longtemps, et qui était quelqu'un qui m'a formé, je jouais avec Anne Cybelle à la FEMIS. Jean-Vincent disait toujours, bon, mais si t'as pas d'argent, va vers le noir et blanc, parce que...
Et ça rime en plus.
Ça... On pourrait dire. Mais c'est vrai que c'est de ne pas voir la... Je dirais presque, c'est presque en crime ce que je vais dire, la contrainte de la couleur, mais on peut peut-être parler un petit peu comme ça. Disons que la couleur, elle ouvre tout un panneau de justesse que le noir et blanc non. Mais par contre, de l'autre côté, on tournait en pellicule, dans un moment sur lequel presque tous les tournages avaient déjà passé au numérique. Et Ossang est un grand connaisseur de la pellicule, est quelqu'un qui connaît profondément les enjeux de tout ça, d'image. On a des énormes discussions sur toutes les questions optiques tout au long de cette préparation. Et aussi de la façon de tirer la pellicule, il connaît ça par cœur, c'est impressionnant. J'ai eu l'opportunité plus tard d'aller voir, parce qu'il tirait l'île Morituri en... Il refaisait la correction couleur de Morituri. Et j'ai suis allé en tant que pour regarder les premières sorties, les derniers tests chez Micros, je pense. Et c'est impressionnant, c'est délicieux pour que si on s'intéresse par la technique de l'entendre discuter les finesses de l'image dans ces sens-là.
Donc la texture aussi.
Ouais, donc c'était hyper agréable parce que Ossang, c'est quelqu'un de très ouvert, de très généreux. Donc, il ne donne jamais un cadre très fermé. Et je veux exactement ça. Il est plus du genre à te prendre par la main et avoir presque une façon... je dirais pas naïve, mais presque enfantin, de conduire ton imagination et non pas le regard pour une solution précise. Donc, et de l'autre côté, en même temps, on se sent très... accueilli et très safe dans ses mains parce que c'est quelqu'un qui connaît cette histoire, cette technique et que parfois n'a même pas besoin de combo pour regarder alors que le film est tourné en pellicule. Donc c'était pour moi, au-delà de l'incroyable voyage humain que j'ai fait dans ce premier film, en cours complet d'une personne que j'admire énormément le travail jusqu'à aujourd'hui.
Alors, on passe à un univers complètement différent, qui est un univers qui est d'actualité, puisqu'il y a le film d'Emmanuel Courcol qui va sortir à la fin du mois de novembre, qui s'appelle Enfant Phare. On va écouter d'ailleurs cette bande-annonce qu'on commence à voir dans les cinémas. Pour ceux qui vont au cinéma, vous risquez fort de tomber sur cette bande-annonce parce qu'elle est très présente en ce moment, mais on va l'écouter à la radio.
Tenez, large.
Je vous explique.
Il y a 15 jours, j'ai appris que j'avais une leucémie.
Ah merde.
Oui. Ma sœur a fait un test pour savoir si elle pouvait me faire un don de moelle, et il s'est avéré qu'elle n'était pas compatible.
Ah merde.
Mais surtout qu'elle n'était pas ma sœur.
Ah putain. Enfin, je veux dire, merde.
Oui. Mais j'ai découvert que j'avais un frère. Et en fait, ce frère, c'est vous.
Putain, qu'est-ce qu'il me raconte, lui?
Le mec, il débarque avec sa gueule de premier de la classe, on n'a rien à voir, lui et moi.
J'essaie de comprendre pourquoi moi je suis ici et lui là-bas, alors qu'on aurait pu être réunis.
Si tu savais ce que j'ai pu y penser à ce garçon pendant des années.
Si on vous avait confié à moi, je vous aurais gardé tous les deux.
Quelle chance de vous avoir trouvé.
Ah, ça c'est sûr, il y a de la chance, lui, hein.
Pour la moelle, ça a marché. Par contre.
Quoi, qu'est-ce qu'il y a ?
Maintenant, j'aurais besoin d'un rein. Alors je me suis dit, comme t'es compatible, si tu pouvais me mettre un poumon avec.
Putain, moi je plonge en plus.
Et ça fait combien de temps que tu joues du trombone ?
Tu sais, ici, c'est fanfare ou foot, hein.
Notre chef nous a plaqué lâchement.
Mais vous avez pas un remplaçant ? C'est toi qui dois diriger.
Ouais, c'est bon, attends, tu vas pas t'y mettre, toi, non plus, hein.
Je vais t'aider. Allez, viens.
Attends, non, hey, j'ai pas dit oui, hein.
Pam, 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 pam.
Mais c'est super, Jimmy, c'est super.
Qui est santé, c'est super, on entend, t'entends rien.
Ah non, mais je te vois, ça le fait grave.
Oh.
Tu vois ?
Il faut avoir de l'ambition.
Tu sais quoi, putain, c'est même toi qui dirigeras l'école de musique.
Moi, je dirige une école.
Tu paries ?
Tu gagnes le bulletin scolaire ?
Alors c'est ça, la vie qu'on aurait dû avoir.
Si on avait tiré le même numéro, t'appellerais pas Thibaut, toi ?
Ouais, hein ? On appellerait comment ?
Je sais pas, moi, un prénom normal, genre Jordan, un truc comme ça.
Ah, ouais.
Vous écoutez Contrebande, émission de cinéma de Radio Libertaire, 89.4 jusqu'à 21h. On écoutait la bande-annonce de En Fanfare d'Emmanuel Courcol. Mathieu, tu as fait les décors de ce film, mais voilà, c'est aussi plus que ça. Tu avais déjà travaillé avec Emmanuel Courcol sur le précédent film qui s'appelait Un Triomphe. Et donc En Fanfare, on l'a écouté un petit peu dans la bande-annonce. La bande-annonce dévoile des choses sur ce personnage de Thibaut, de Benjamin Laverne, qui est un chef d'orchestre très important, qui parcourt le monde, qui apprend à travers donc la détection de sa leucémie, qu'il a été adopté, et il va rencontrer donc son frère qu'il ne connaissait pas, Jimmy, qui est joué par Pierre Lottin, qui est employé de cantine scolaire, qui est pas du tout du même milieu, qui joue du trombone dans une fanfare du nord de la France. Et donc voilà, c'est comme souvent, voilà, une narration comme ça de la rencontre de deux personnages que tout sépare. Mmh. Et donc ce personnage de chef d'orchestre de Thibaut, de Benjamin Laverne, qui va essayer de réparer un peu cette injustice du destin que Jimmy n'ait pas eu un peu la vie qu'il a eu lui-même. Et donc on a là une multiplicité de décors, donc on peut parler de ça parce que c'est très intéressant. Il y a déjà l'idée de la salle de spectacle qu'il y avait déjà dans le précédent film, dans Un Triomphe, parce qu'il y avait déjà des salles de spectacle dans ce film-là, puisque ça racontait aussi un triomphe, l'histoire d'un acteur en galère, hein, qui a accepté pour boucler ses fins de mois d'animer un atelier théâtre en prison. Donc il y avait à la fois des décors en prison et puis des décors de théâtre. Et donc là on a évidemment l'idée de montrer où évolue ce chef d'orchestre joué par Benjamin Laverne, et puis et aussi ses appartements luxueux où il vit, et puis la différence sociale avec le personnage incarné par Pierre Lottin de Jimmy, qui lui vit dans le nord de la France, avec qui répète dans des salles des fêtes, et puis qui vit très modestement. Donc voilà, raconte-nous un peu, Mathieu, les enjeux des décors de ce film-là, justement sur ces différences sociales aussi.
Tout à fait, mais je pense que non seulement Emmanuel, mais Agathe Film, à travers de Marc Bordure qui produit le film, sont des gens qui ont en effet cette attention avec quelque chose de social. On sait qu'Igadigan est aussi partie de cette boîte de production qui est déjà très structurée en France. Au-delà de ça, je dirais que c'est un film, c'est un voyage émotionnel. Tu vois, parfois, ça peut paraître qu'on raconte beaucoup trop au pitch du film ou à la bande-annonce, mais en fait, c'est un film sur lequel tu peux pas imaginer l'émotion que tu vas avoir pendant le film. C'est vraiment, j'admire beaucoup Emmanuel dans cette possibilité de en tirer de la comédie du drame et du drame de la comédie. Qui est une chose qui je trouve une des choses les plus difficiles de faire dans les cinémas. Il y a des films que j'admire comme ça, au-delà des films d'Emmanuel comme Little Miss Sunshine, qui sont des films sur lesquels, sur la même projection, tu peux pleurer, tu peux rigoler à fond, et ces carrousels d'émotions, c'est quelque chose super complexe. Et d'une certaine façon, Emmanuel a un cinéma complètement différent d'Ossang, mais c'est quelqu'un qui est très 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 en confiance de son équipe. En fait, il nous fait énormément confiance. Je pense que d'un côté, ça lui libère pour qu'il soit vraiment à sa place, qui est le travail avec les acteurs où il excelle incroyablement. Et d'ailleurs, même ses choix d'acteurs, ils sont très axés dans ce sens-là, de quel est le rapport qu'il va avoir avec eux et de comment ces acteurs-là, ils ont les conditions de lui donner en retour ce qu'ils cherchent, et ce qui est très, très, d'ailleurs, très différent de tous les autres réalisateurs avec qui j'ai travaillé dans le fait de choix. Je pense que ça doit jouer le fait que Emmanuel aussi a joué et que est quelqu'un qui vient du scénario aussi. Donc, je pense que le mot a quelque chose de très fort à l'intérieur de ces histoires-là. Et en même temps, c'est quelqu'un qui est absolument en confiance, donc n'a pas peut-être le type, la même typologie, la même topographie qu'en film d'Ossang, mais que c'est très bien indiqué qu'est-ce qui est l'essentiel de ce qu'il cherche dans son film pour pouvoir nous donner les directions. Après, en effet, en fanfare, c'est un film, bon, je pense que sur le papier, on avait quelque chose comme 70 décors. On en passe à beaucoup, beaucoup, beaucoup de lieux différents, de la salle de spectacle au petit coron à Lille, à une salle en gymnase et en garage. Donc on a vraiment c'est une immense panoplie de décors qui se distribuent là-dessus, et je pense qu'on essaie de rester au plus fidèle possible à lui donner non seulement cet espace pour qu'il puisse travailler en confort avec ses acteurs de la meilleure façon possible, mais aussi de garder l'œil dans l'histoire. Comment on fait pour que les décors ne soient jamais quelque chose qui enferme l'histoire, mais que ce soit tremplin pour qu'on puisse s'approfondir dans ce qu'on raconte, quoi. Et dans ce point-là, ce fait de travailler avec un réalisateur qui est scénariste, qui est un scénariste vraiment chevronné, qui a de la bouteille, ça nous permet aussi d'avoir beaucoup, beaucoup, d'avoir un univers énorme et beaucoup de notions à propos de tous ces personnages pour venir faire pousser ces décors vraiment avec le concept de base du film et des personnages, quoi, pour qu'ils puissent se retrouver dans les espaces où ils vont.
Et là, par exemple, si on prend le personnage de Jimmy, donc de Pierre Lottin, qu'est-ce que le décor raconte de lui, par exemple? Qu'est-ce que toi tu t'es dit, et qu'est-ce que Emmanuel t'a demandé pour un peu dire des choses que le scénario ne dit pas, en tout cas que les dialogues ne disent pas?
Oui, c'est en fait l'histoire de Jimmy est une histoire complexe, parce que d'une certaine façon, elle raconte son histoire à lui et aussi la non-histoire du frère. Qui a été élevé dans une famille aisée, alors que Jimmy est resté un peu dans la condition sociale de ce qui était la mère avant. Donc l'idée, ça a été un petit peu de construire avec cette, il y a une tierce personne qui n'est pas sa mère, qui a élevé Jimmy et qui était quelqu'un qui est de la sécurité sociale et qui travaillait avec des enfants et diverses. Donc on en avait tout un espace pour en créer à travers beaucoup ces personnages-là, tout ce qui était cette vie d'une personne qui a été élevée par quelqu'un qui n'est pas sa mère non plus, biologique, mais qui a servi, qui a agi comme mère et qui a pris la place de la mère par de vrai, si on pense que la mère est celle qui élève, non pas celle que biologiquement porte l'enfant. Et en même temps, de raconter qu'est-ce qui passait en ombre aux yeux du personnage de Benjamin Laverne, qui est le maître d'orchestre, quoi. Et comment, après, à un moment donné, aussi dévoiler toute l'intimité de ce personnage de Jimmy, qui a son monde secret à lui, qui est aussi lié à la musique. J'ai pas envie de spoiler complètement l'histoire, mais c'est beaucoup par là, tu vois. Donc c'est une espèce de jeu de pistes intérieures du film, sous lesquelles à chaque fois que tu ouvres une porte, t'as encore une autre chambre qui peut montrer toute une nouvelle facette de la vie de ces personnages.
Et comment on s'imprègne justement d'un... Parce que là, pour le coup, mais c'est valable aussi pour d'autres films pour lesquels tu as travaillé, des films qui t'ont entraîné vers des univers très très différents. Parce que si je pense à Ben et Adama, on est dans un petit village du Sénégal.
Tout à fait.
Pour La Nuit Venue de Frédéric Farrucci, là, c'est il fallait travailler un peu
la mafia chinoise,
les intérieurs de possibles imaginaires ou réels de la mafia chinoise. Alma Viva de Cristel Alves Meira, on est dans un petit village du Portugal, donc ça veut dire beaucoup de recherches documentaires, beaucoup de c'est ça qu'il faut faire.
Il y a bien sûr j'ai entendu une fois une phrase, je sais pas qui c'est, ça doit être quelqu'un de connu qui a dit ça, je sais pas de qui est l'origine, c'est la réalité est riche, l'imagination est pauvre. Et en effet, en fait, quand on va faire de la recherche, on gagne énormément, parce que en fait on trouve en son nombre de possibilités pour chercher. Après, je pense qu'il y a quelque chose du feeling, encore pour citer un fanfare, par exemple, il y avait des questions de la musiciens entre les deux frères, et bien sûr des indications qu'on discute avec les réalisateurs, et après on passe pour l'équipe. Tu vois toute la partie de la musique classique dans le film. On avait travaillé avec une imagerie beaucoup plus géométrique, abstraite. Tu vois, ça me faisait penser au constructivisme, à tout ça, donc que ça soit dans les graphismes, et toute la partie qui a d'une musique beaucoup plus disons populaire, en tout cas, ou qui sort du classique, qui est lié à l'autre personnage, le personnage de Jimmy. On a travaillé des choses beaucoup plus figuratives. On se donnait cette possibilité de figurer beaucoup plus les choses et d'amener de la couleur, parfois plus de couleurs dans un et réduire la palette dans l'autre. Donc, c'est des choses qu'on essaye de faire. Dans le cas de La Nuit Venue, où on avait aussi cette espèce de dualité d'une réalité extérieure vue par le pare-brise de Hubert qui conduisait le personnage de Jim, et en même temps le background de ces paris à travers l'exploitation faite à des personnes qui étaient presque dans une condition d'esclavage par ce biais de la mafia chinoise. Donc, et c'était très intéressant aussi parce que on a tourné tous les intérieurs à Marseille parce qu'on avait des financements de BACA et le film était écrit aussi comme ça. Les extérieurs et l'intérieur avaient des coupures franches. On n'avait jamais une caméra qui venait de l'extérieur et qui rentrait dans l'intérieur, à part pour une séquence qui est en plan séquence unique, qu'on arrivait à faire. C'est pas unique, il y a quelques coupes, mais on arrivait à le faire entre Aubervilliers et Marseille. mais en effet, ça nous donnait une énorme possibilité de plonger dans un univers qui était aussi très créé. Bien sûr, toujours en conversation avec Frédéric Farrucci et Antonio Parrucci, qui était le chef opérateur. Mais des choses géniales. On a travaillé notamment avec une personne de la communauté chinoise qui faisait de la calligraphie, et tous les Et à un moment donné, Odin il vient voir le boss de la mafia qui est avec son comptable. Et en fait, on a rempli les livres du comptable avec des vraies inscriptions en chinois, avec des noms de code, avec, avec des vraies notions qui pouvaient donner à Frédéric de mettre là ses acteurs et dans ces peu de temps de travail, avoir un univers qui soit nourri dans son background, quoi. Du coup, finalement, c'est un peu ça. Quand on fait de la déco, on passe le temps à se raconter tout ce qui est dans les entrelignes du scénario. On peut ça, c'est qu'est-ce qu'on ne voit pas écrit, mais qu'on doit imaginer pour pouvoir aider, pour continuer à raconter l'histoire du film. Tu vois, en général, avec mes équipes, on essaye de garder quelles sont les réponses, si on a des questions à se poser, quelles sont les réponses qui vont être les bonnes, sont toujours celles qui répondent aux besoins de l'histoire. C'est toujours celles qui sont en cohérence avec les questions qui sont posées déjà par les scénarios, mais que peut-être on ne voit pas parce que c'est une histoire qu'on se raconte à nous parfois.
C'est un peu l'idée, après tu l'as dit un peu au début, qu'un décor ne doit pas se voir au cinéma.
Ouais, je pense qu'il, c'est pas qu'il doit pas se voir, mais je pense qu'il faut qu'il soit, à nouveau le production design. Et il faut qu'il soit partie du langage. Et parfois, il faut qu'il se voit. Je sais pas, je pense à des exemples très, genre à bout de souffle, où on a le Picasso sur le mur et la caméra, elle passe du temps aux mêmes deux, trois choses qui j'essaie d'elle, où on va plonger dans la tasse de café jusqu'au point où elle devient l'univers avec ses mots de Godard, quoi. Donc, c'est, tu vois, j'ai pris bien sûr Godard comme exemple parce que c'est, disons que dans la grande dernière génération la plus connue de France, où on a passé sur quelque chose, sur une idée du réalisme français entre guillemets, mais je pense que les décors, il doit être partie de l'histoire. Il est bien sûr en second degré, je dirais comme ça. Et après, c'est au réalisateur de savoir s'il le montre ou s'il le cache. Et de toute façon, c'est à nouveau, c'est plus qu'est-ce qu'on exclut, qu'est-ce qu'on choisit garder à l'intérieur du cadre pour que ça soit toujours de l'histoire et non jamais de l'esthétique. Je me rallonge un peu, mais j'ai un petit souci avec, comme j'ai appris en France que le mot est important dans cette culture, de temps en temps, je me permets de me questionner à partir de certaines expressions que j'entends. Et de temps en temps, j'entends les gens parler d'esthétisme. Et je trouve que d'un point de vue philosophique, c'est extrêmement, presque en erreur de parler d'esthétisme. Parce que l'esthétique est quelque chose qui émane de l'œuvre d'art. Elle est partie de qu'est-ce qui est la forme d'une œuvre. Donc elle ne peut pas être déliée de l'œuvre, de quelle qu'elle soit, que ce soit de la musique ou de l'œuvre visuelle ou de la peinture ou du cinéma. Donc quand on parle d'esthétisme, je trouve un peu dommage, ça me fait un peu triste, ça me rend un peu triste parce que je trouve que le mot n'est pas juste. À nouveau, je trouve que c'est de bien savoir quelle est l'esthétique sur laquelle tu es en train de travailler pour ne pas venir marcher sur les pieds des autres personnes, puisque c'est un art collectif. On n'est pas là pour apparaître en détriment des autres. On est là pour composer, pour travailler pour une histoire.
Ça nécessite aussi de parler avec le chef opérateur, avec aussi les chefs costumiers, enfin de voilà, ces interactions permanentes.
On est en toute petite partie d'une fraction de notes qui compose cette musique là. On est juste un des éléments qui compose les films, et faut rester à l'écoute des envies du réalisateur et aussi de qu'est-ce qu'il faut faire les chefs opérateurs et les costumiers. Ma femme est costumière, donc c'est quelque chose qui me fascine absolument.
Mais vous ne travaillez pas forcément sur les mêmes films?
Non, elle est costumière beaucoup plus pour le théâtre et pour l'opéra. Et donc c'est pas trop le cinéma, mais je suis. Depuis que je suis avec elle, c'est quelque chose qui me fascine complètement.
Est-ce que tu travailles avec une équipe de repéreurs ou est-ce que tu fais les repérages toi-même des décors dans lesquels tu veux tourner?
Ça dépend beaucoup naturels. Du projet. Souvent en France, on a quand même les repéreurs et même à l'extérieur sur le travail j'ai fait un film au Cap Vert l'année dernière. Évidemment, on a eu des locaux, ouais, exactement. Ouais. En effet, si on peut participer du travail, je pense qu'il y a souvent les repéreurs, ils font de bonnes propositions et après on vient filtrer en tout cas. Et en tout cas, on essaie d'être au maximum présent avec le réalisateur pour aider à filtrer et donner la direction de ça. Et c'est très très agréable quand on a des super repéreurs, quoi. Mmh. Ouais. Dernier des Juifs, il y avait, c'est horrible, mais j'ai oublié le nom de la personne qui a fait, c'était une femme. Et c'est les propositions qu'elle nous avait faites à moi et à Thibaut Pinto, qui a vraiment été le décorateur. Moi, je fais la première partie, le développement artistique avec Noé Desbré et Thibaut ensemble. Et après, c'est Thibaut qui a mené jusqu'au bout. Mais la repéreuse, elle était superbe. Elle était très, très précise avec les demandes qui étaient faites par Noé et dont le travail qu'on a fait en préparation. Et ça a été, à mon avis, une des vraies questions qui a permis que les décors du film, dans toute modestie, mais je les trouve plutôt réussis, quoi. Je trouve qu'elles sont vraiment dans le ton du film. Et je suis très touché par le travail de Thibaut, qui a fait un travail incroyable dans ces films-là.
Et pour le coup, c'est un décor effectivement très important qui reflète véritablement l'âme d'un personnage. Je pense à Agnès Jaoui, le personnage principal du film qui vit avec son fils, mais dans un appartement et l'appartement bouge tout le temps. Enfin, le décor bouge tout le temps.
Il est très organique.
Ouais, ouais, complètement. Ouais.
C'est très organique. Il arrive à être drôle et dramatique aussi au même temps. Et j'étais vraiment très touché quand j'ai vu le film et que j'ai vu les photos qui m'ont été montrées par Thibaut, qui a vraiment fait le grande partie du travail du film. J'étais très 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 agréablement surpris pour voir ces décors monter et si vivants, quoi. C'est très impressionnant.
Et ça t'arrive donc parfois de travailler ponctuellement sur des films. Je pense aussi à L'Homme d'argile, où tu as conçu L'Homme d'argile, justement, la sculpture que crée le personnage d'Emmanuel De Vos dans le film.
Tout à fait. C'est qui a fait la déco, c'est Catherine Jarrier. Et moi, j'étais avec Anaïs Telen, qui est la réalisatrice. On m'a été donné cette incroyable opportunité de travailler avec à nouveau. Je ne travaille jamais seul et j'ai la chance d'avoir des sublimes équipes. Et c'était aussi ça, en fait, l'homme d'argile qui est sorti
en février,
février, ouais. Et qui maintenant est en plus là pour les votations des Césars, oui. Et tout ça. Avec Raphaël Thierry, et on a fait un long processus avec Anaïs et toute la production du film Coro pour découvrir comment on avait un problème particulier. Emmanuel De Vos, c'est un film qui aussi a été modeste en termes de financement. Et il nous fallait que toutes les étapes de l'écriture soient sur le plateau pour des raisons de temps de tournage, voilà. Et en fait, il fallait que ça soit raccord. Donc d'abord, on a dû dépouiller toutes les étapes de cette sculpture-là. La sculpture est un énorme enjeu dans les films. Je conseille à nos auditeurs de courir pour le voir, parce que les films sont vraiment une perle. Ils diffèrent en plus, c'est un film qui est... Je sais pas, t'as vu le film?
Oui, bien sûr.
J'ai l'impression qu'il est vraiment différent,
ah oui, très différent
de ce qu'on voit dans le panneau français aujourd'hui. C'est vraiment assez étonnant. C'est un film à part.
C'est très étrange.
Ouais, et d'ailleurs c'est de cette étrangeté qui sort la vraie force du film. Je l'adore. Et en fait c'est ça, on a fait un vrai travail qui a joué avec le processus des plus anciens jusqu'aux plus nouveaux, quoi. On a eu un travail de sur lequel on a moulé la tête de Raphaël. Et qu'après, on a travaillé avec un sculpteur qui s'appelle Mozart Guerra, qui est un sculpteur qui est aussi un Brésilien, qui vit en France depuis plus de, là maintenant, 25-30 ans. C'est un super ami et qui est un sculpteur, incroyable sculpteur, et que nous a aidé à trouver avec la bonne argile, l'argile locale en plus, qui c'est Anaïs qui a choisi, locale, on a trouvé quelle était la texture de ces tomes d'argile. Et après on a travaillé avec on a beaucoup cherché avec des modèles numériques qui ont été sculptés numériquement avec Anaïs jusqu'à trouver la bonne position pour cette statue. Et après on a photographié Raphaël avec cette statue, on a fait du concept art pour toutes les étapes. Et à la fin, on a fait un scan de Raphaël et de cette tête qui a été déjà un tirage de sa tête à lui avec la texture qu'on a fusionné dans un même modèle numérique et qu'après, on a fait tirer en taille en échelle 1, donc en taille réelle, en 3D, en fraisage 3D, c'est un processus, c'est comme dans l'impression 3D, mais il découpe dans le bloc, disons comme ça, en bloc de mousse. Mmh. Et après, on a eu encore une super artiste SFX qui s'appelle Camilla Bassi, qui est une italienne, mais qui habite à Barcelone, super talentueuse, qui était sur le plateau pour transformer cette froideur de cette sculpture. On peut tirer en 3D dans toutes les étapes que l'on avait besoin pour aboutir à ces six étapes qui sont montrées pendant le film, en tout cas qui étaient filmées. Donc c'était un travail de très particulier, parce que là, voilà, on parlait de recherche avant, c'est une recherche, on en dit toujours que dans le cinéma on fait que des pilotes. Et là, c'était très évident, ça.
Ouais, complètement. Ouais. Le film doit exister, je crois, maintenant en VOD pour nos auditeurs. Donc,
il est en VOD. Courez le voir parce que c'est vraiment un film spécial.
Ouais, complètement. Mais du coup, c'est vraiment voilà, ce film-là, c'est un peu spécial, l'interaction avec un acteur. Mais est-ce que, de manière générale, il y a des interactions avec des comédiens sur les plateaux? Est-ce que il y a déjà des comédiens qui sont venus te voir en disant voilà, je me sens bien, ou je me sens pas bien dans ce décor, enfin est-ce que ça agit?
Bien sûr, déjà c'est ça, on essaye de travailler de sorte, par exemple dans La Nuit Venue, on a beaucoup travaillé parce que le personnage de Jean, qui était le conducteur, était DJ en Chine avant de devoir déménager à Paris. Donc il y a eu un travail soigneux de rechercher quel était son matériel, parce qu'il était quand même en condition précaire pour composer sa musique une fois qu'il était en France. Mais en même temps, il fallait qu'on sache quels sont avoir une certaine justesse sur un matériel qui correspond à un vrai créateur de musique, un vrai DJ. Et donc on en a travaillé avec l'acteur et aussi en parallèle avec un musicien qui s'appelle Thomas Collin, qui est aussi un réalisateur des films en macro, qui est un super ami, fait un travail incroyable, mais qui fait aussi la musique de ses films, donc il compose, qui nous a beaucoup aidé à composer ses personnages, et finalement il a travaillé aussi avec l'acteur pour que il ait les gestes justes. Dans Lo Sang, par exemple, on avait fait quelque chose que on avait la place pour faire, qui était comme ces personnages de FJ, ils ont presque un côté allégorique, chacun d'entre eux. Donc il y a un qui est tout le temps sous la dope et qui va utiliser tout type de drogue qui lui tombe sur la main et qui a un discours là-dessus. Donc on a fait un paquet de matériel pour Magloire, qui est le personnage de Paul Amy. On en avait, il y avait une composition de son carnet de personnel. Donc on a fait toute une panoplie de d'accessoires qu'on a mis à disposition des acteurs pour qu'ils viennent se servir en pot à table pour sentir qu'est-ce qui leur rendait à l'aise pour le personnage de Kurtz, de aussi d'Amir Bonnard. Donc on a essayé de construire une espèce de essayer de donner cette l'existence de cet univers de sang à travers des accessoires et laisser le temps pour que les acteurs y viennent. On peut manipuler ça, ils voir sur quel type d'objet ils se sentaient à l'aise. Parfois c'était même pas sur le plateau en caméra, mais ils ont récupéré ces objets qui après, selon eux-mêmes, avaient une certaine façon de les aider à composer les personnages. En tout cas, je veux croire qu'on a pu aider dans ces sens-là, parce que c'est l'intention. Donc, on essaye de, dans ces rapports avec les acteurs, être là au maximum pour c'est ça, pour si on aide d'une certaine façon ceux qui vont être à la première loge de la création de l'univers, qu'on puisse aussi si on peut aussi aider aux acteurs pour qu'ils puissent en participer de cette création et nous donner aussi des indications qui pour nous sont essentielles, quoi, tu vois. On ne peut pas avoir le personnage sans le personnage, donc quand l'acteur vient vers nous, on est toujours très content parce que on est en train d'apprendre sur l'histoire qu'on est en train de raconter.
Super. Bah, on pourrait continuer encore pendant des heures, mais on a déjà dépassé les 21h. En tout cas, oui, ce qu'on peut dire aussi pour terminer, c'est ce qu'on aurait pu commencer par là, c'est que la base de ton travail, toi qui as été formé aux Beaux-Arts à São Paulo, au Brésil, ta base, c'est le dessin. Mmh. C'est ça, la base sur laquelle tu construis ton travail, c'est toujours le dessin. Mmh. D'ailleurs, tu as toujours peut-être que là tu l'as pas sur toi, mais tu as un carnet avec voilà, beaucoup de dessins qui sont la base des décors que tu imagines pour les films.
Tout à fait, le dessin est un langage est un langage très agréable parce que il permet de fusionner les choses. Pour quelqu'un qui est disons expatrié comme moi et qui maintenant je suis composé par plusieurs cultures, je pense que c'est peut-être que ce qui me reste de plus fort en tant que Brésilien, et toi qui connais super bien la culture brésilienne, c'est ces côtés, c'est ce que les tropicalistes ont repris des modernistes dans l'anthropophagie, qui est cette idée de qu'on peut se nourrir de la chair de l'autre d'un point de vue culturel, et le dessin il permet de ça, et il est un bon endroit de fusion de toutes ces différentes cultures, que ce soit la culture française où j'en ai appris énormément et je suis ravi d'en apprendre tous les jours, mais aussi ponctuellement quand on va dans un lieu comme le Cap-Vert qui a sa propre culture et qui a passé par un processus historique complètement différent de la France ou du Brésil. Donc, les dessins sont un bon compagnon pour qu'on puisse garder ses côtés éponge et absorbre d'une certaine façon. Il y a une chose, on discutait à propos de l'IA et de le fait qu'elle pourrait remplacer les dessinateurs. Ouais. Écoute, l'IA peut-être pour remplacer les dessinateurs, mais elle ne peut pas remplacer les dessins en tant qu'exercice. Parce que le dessin, c'est prendre le temps d'apprendre avec le regard. Et du coup, on peut m'enlever tous mes dessins, mais peut-être qu'on ne pourrait pas m'enlever ce que je ne peux pas vivre sans, c'est ce temps d'absorption que les dessins ils me proportionnent, parce qu'il il est un outil pour apprendre le monde. Donc ouais, j'adore le dessin, parce que le dessin est moins le résultat du dessin qui est le processus de dessiner. Mmh. Et pour la déco, c'est super, parce qu'il sert autant comme un outil de prévisualisation, mais il sert aussi comme liste pour toute une équipe. Donc on fait des dépouillements, on l'écrit bien sûr et tout ça, mais à un moment donné, t'as un décor qu'à dessiner en avance, le réalisateur peut avoir une idée de ce que ça va être, l'accessoiriste il peut avoir une idée des accessoires qui sont sur le plateau, l'ensemblier il peut comprendre quelle est la typologie du mobilier, et donc quelqu'un comme moi qui suis, disons, dans cette hiérarchie de la déco en première ligne, mais qui en fait ne peut pas vivre sans tous mes assistants, qui sont les gens qui font vraiment les choses. J'essaie d'être, en tout cas, disons que je suis le filtre ou la traduction entre les envies du réalisateur, les discussions avec les chefs opérateurs, et ceux qui font, ceux qui exécutent les décors. Donc le dessin est en élément de traduction que me sert beaucoup dans ces sens-là.
Super. Ben voilà, pour les auditeurs, en tout cas, dans l'actualité immédiate, c'est d'aller voir En Fanfare, le film d'Emmanuel Courcol. Vous verrez le travail de Matché dans ce film, aussi dans le précédent, Un Triomphe, qu'on peut trouver facilement, là aussi en VOD. L'Homme d'Argile, donc pour ce travail sur L'Homme d'Argile, film d'Anaïs Télen. Et puis voilà, tous les films que j'ai cités. Voilà, merci beaucoup.
Je pense qu'ils sont tous les autres en VOD, ils sont tous trouvables en VOD, n'hésitez pas.
Voilà, que ce soit La Nuit Venue, Alma Viva, je rappelle les titres, hein, Banel et Adama, Neuf Doigts, tous ces films, ils sont trouvables, hein, donc vous pouvez voilà, vous référer et aller voir un peu tous ces films-là. On va terminer l'émission, je ne sais pas du coup si on a le temps de passer cet extrait de Jean-Claude Mission. Je laisse juge à Julien Chastan, le réalisateur de cette émission, que je remercie évidemment pour tout. Depuis 19h, et puis on va se quitter aussi par avec une musique. J'avais choisi comme ça, j'avais l'embarras du choix, hein, pour le Brésil, pour quand même passer un peu de musique brésilienne, et je voulais qu'on passe quelque chose de pas connu, évidemment, en France, en tout cas moins connu que ce qu'on entend d'habitude. Donc j'avais choisi Secos e Molhados.
Waouh, Ney Mato Grosso.
Neu Mato Grosso, et une chanson, voilà, un peu connue de, voilà, quand on connaissait Secos e Molhados, c'est Sangue Latino.
Ok.
Qu'on va écouter, qu'on peut écouter aussi pour se quitter. Voilà.
Bon, bah, merci beaucoup et bonne nuit à tous qui nous écoutent.
Merci à toi et à très vite, Contrebande.
C'était un plaisir.
Radio Libertad.
Assumo os pecados. Os ventos do norte não movem moinhos. E o que me resta é só um gemido. Minha vida, meus mortos, meus caminhos tortos. Meu sangue latino, minha alma cativa. Rompi tratados, traí os mitos. Quebrei a lança, lancei o espaço. Um grito, um dia. Vida, meus mortos, meus caminhos tortos. Meu sangue latino.
ma cativa.
Ce soir, nous sommes heureux de recevoir Jean-Claude Mission à l'occasion de la sortie de vos mémoires aux éditions Rive-Neuve, collection cinéma Archimbaud éditeur, Le cinéma en héritage. Et ce titre alors?
Vous savez, je suis tombé dans le cinéma, j'avais 5-6 ans, j'ai 78 ans aujourd'hui et je continue à adorer le cinéma, donc c'est toute ma vie. Très très fort, le cinéma était une chose, il n'y avait pas la télévision, il y avait la radio bien sûr, donc la distraction numéro un de tout le monde c'était le cinéma. Et il y avait un nombre considérable de spectateurs en 45-46 à la Libération, plus la redécouverte du cinéma américain dont les gens avaient été privés pendant l'occupation. Donc on découvrait tout ça et dans des temps surdimensionnés, les salles faisaient 2000, 3000 places, 6000 places de Gaumont, et c'était archi bourré. J'ai passé des séances dehors à attendre, faire la queue avec mon père. Il y a eu à l'époque, il y avait quelque chose comme près de 500 millions de spectateurs à peu près. Ce qui était énorme, énorme. En plus, le cinéma à l'époque n'était pas cher. C'était une distraction très bon marché. Il y a une folie américaine qui a duré de 45 jusqu'à 52-53 parce que les Américains nous avaient délivrés. Donc on découvrait tout ça. La presse communiste tapant volontiers contre les films américains, évidemment, à l'époque. Il y avait même des phrases dramatiques, je me souviens, les mauvais films américains nous privent de devises. Il y avait des choses comme ça, les flèches américaines empoisonnées corrompent la jeunesse française. Ça allait loin. Hein. Le cinéma a bouffé vraiment ma vie, il n'y a pas d'autre chose.
Comment vous êtes passé de cet amour de ces héros, de ces personnages de cinéma, à la mise en scène et à la conscience qu'un film aussi c'est d'abord de la mise en scène? Un des premiers textes importants que vous allez écrire, c'est le texte sur Anthony Mann, c'est cette monographie, mais vous parlez de mise en scène dedans, véritablement, de cadre, de chant, etc.
C'est un travail qui se fait au fur et à mesure. Quand j'étais petit et même adolescent, j'allais voir des films pour les acteurs. J'allais voir un film de Gary Cooper, de Burt Lancaster, de Sophia Loren. J'allais pas voir des films de metteur en scène. Et puis un jour, à Londres, j'ai eu le choc de ce qu'était la mise en scène, probablement. C'est très difficile à dire, ça. Vous avez une longue pratique du cinéma. Et puis un jour, vous vous rendez compte qu'une séquence particulière vous a beaucoup frappé. Vous vous rendez compte que cette séquence, elle existe également dans d'autres films du même metteur en scène. Donc vous faites le lien. Et puis petit à petit, vous en arrivez à ce que c'est que la mise en scène. C'est-à-dire, c'est pas uniquement photographier quelque chose, c'est nourrir la séquence de l'intérieur, par des cadres, par des focales, par une expression personnelle, par une sensibilité personnelle. Et ça, j'ai découvert chez Mann. Et il y a trois metteurs en scène qui m'ont vraiment très très marqué de façon profonde. C'est Michael Curtis, qui est un immense metteur en scène. Il y a René Clément, et puis il y a Anthony Mann, qui sont des gens qui m'ont vraiment marqué et appris des choses. J'ai eu la chance de rencontrer André Mann, de bien connaître René Clément, et ce sont des gens, c'était des pédagogues, ce sont des gens qui vous apprennent des choses. Et Curtis, donc j'ai pas connu, mais par contre, en voyant ses films, vous apprenez des choses. George Lucas, pour parler de raison, est un fan de Michael Curtis, par exemple. Et il y a des séquences entières de ses films qui sont pompées sur les films de Curtis. Le cinéma est c'est une passation de pouvoir. J'ai découvert Anthony Mann par les westerns, on les connaît tous, Winter 73, La Porte du Diable, Les Affamores, La Porte, L'Homme de la Plaine, L'Homme de l'Ouest, etc. Et donc il y a eu les articles qui paraissaient de Godard, de Truffaut, de Chabrol, dans lesquels il y a eu du cinéma à l'époque, sur Anthony Mann. Et puis vous vous rendez compte que vous aimez cet homme et pourquoi, vous cherchez à savoir pourquoi. Les films vous imprègnent, vous imbibent. Vous cherchez à savoir pourquoi vous êtes à ce point perméable à ce qu'il vous montre. Et vous voyez la différence, vous voyez un film avec Tartampion, il se passe rien. Mais là, Mann, il se passe quelque chose. C'est très difficile à expliquer ce qu'est la mise en scène. trouve très difficile, très difficile. C'est pour ça que Truffaut disait qu'il n'y a pas d'école pour apprendre la mise en scène, c'est vrai. Moi, j'ai appris la mise en scène, ce que j'ai su en tout cas, je l'ai appris en voyant des films, pas à l'école. D'ailleurs, quand je suis rentré de l'armée, j'étais trop tard pour moi de faire l'IDEC, et Henri Hachem l'a pris comme éditeur libre, à la classe du lycée Voltaire. Vous n'apprenez pas la mise en scène. Il me l'avait dit d'ailleurs lui-même, si vous aimez le cinéma, à ce un jour ou l'autre, vous finirez par faire la mise en scène. Si ça vous tenaille, si vous... c'est un chemin semé d'abîmes, hein. Très, très difficile.
Le fait d'avoir vu autant de films, quand vous avez commencé à réaliser des films dans les années 80, ça vous a pas dérangé au moment de concevoir le découpage de vos films de...
Non, ça vous aide au contraire. Ça vous aide, c'est-à-dire que quand vous arrivez sur un plateau, puis que vous pouvez quand même être quelquefois paumé, et vous pensez à ce que vos aînés ont fait, et ça vous aide. C'est ce que les Américains appellent run for cover, c'est-à-dire c'est se protéger avec ce que l'on sait faire de mieux. Vous prenez une séquence, vous essayez de la reproduire parce que vous voyez que cette personne a trouvé la solution de telle et telle manière, vous essayez de reproduire. C'est copié, mais en même temps c'est un hommage, c'est très difficile, mais puis vous mettez ça avec votre sensibilité personnelle. Mais ça vous aide.
Par exemple, si je vous donne un exemple comme ça de votre premier long métrage, Tir groupé, où le personnage de Gérard Lanvin va apprendre que sa compagne a été assassinée dans un train. Comment montrer la douleur d'un personnage, de montrer le moment où il apprend que sa femme est
morte. Ça, c'est un travail avec le comédien. Il y a aussi la sensibilité du comédien, ce qu'il vous apporte, parce que le comédien n'est pas un pion que vous déplacez comme ça, c'est quelqu'un qui a des idées aussi. Donc voilà, vous le mettez en situation...
Mais est-ce que là, par exemple, vous pensiez à une scène
Non, parce que quand vous êtes vraiment sur le vous, voilà. Vous gommez tout ça, vous oubliez. En plus, ça vous nourrit tellement de l'intérieur et de façon insidieuse, permanente, vous êtes imbibé. Hein, donc c'est une sorte de tunique de Nessus, en fait. Une deuxième peau.
C'est dérangé ? Inspecteur du Seigneur Gagnon. Mon aspirant a été victime d'une agression. On est avec vous, cela.
Parce que là, il y a ce plan, effectivement, on ne voit jamais le policier annoncer à Gérard Lanvin que sa femme est morte. On a ce travail avant sur la...
Là, vous mettez le doigt sur quelque chose. C'est-à-dire, on était tellement pauvres pour faire ce film, c'est le budget d'un téléfilm. Mmh. On a fait le film en 30 jours. Il y avait une séquence qui était prévue, comme quoi Lanvin arrivait sur le cadavre de Véronique Jeannot, il s'écroulait. Et on n'a pas eu le temps de tourner la séquence. Donc, vous savez, qu'est-ce que faire? Et puis j'ai eu l'idée. J'ai eu l'idée de faire un travelling avant sur le wagon, vide. De remettre le train en marche, la musique du train en marche, et le spectateur qui a vu ce qui s'est passé imagine ce qui se passe, et donc ça, voilà, c'est bête comme chou, hein, mais c'est le hasard qui a fait les choses.
Oui, mais le cinéma c'est fait que de ça.
Aussi de ça. Ouais, vous pouvez pas tout. C'est pour ça que je crois très peu au storyboard, aux gens qui préditent et qui prévoient tout à l'avance, c'est pas possible.
Et quelque part, c'est un art pragmatique aussi, le cinéma.
Aussi. Vous avez prévu une séquence par beau temps, il pleut, qu'est-ce que vous faites? Voilà, ça c'est terrible. Vous tournez de nuit, à minuit, vous avez toute l'équipe qui se liquéfie, parce que tout le monde a froid, etc. Il faut booster tout ça, c'est un drôle de truc. Hein.
Buzzards who circled to kill.
child on my own in the hill. Watching sun on the wings of the buzzards who serve.